J'espère que vous allez bien. Ah, le régal, le régal. Vous savez, il y a quelque chose qui est plus fort que le café pour réveiller un streamer le matin. Il y a le chat. Captain, oui, désolé. Désolé. Il y a des messages dans le chat qui mettent de bonne humeur, qui réveillent. C'est un kiff. Je voulais vous mettre le petit visuel du stream de mardi là qui est. Est-ce que c'est celui-là? Oui, il est par contre. Oui, d'accord, mais il est gros. C'est trop. Alors je sais qu'on aime les choses un peu imposantes ici, mais attendez, je vais vous le réduire quand même. Ah, ça c'est mardi, ça faut pas rater, c'est 20h, c'est la fête. Il y a du beau monde. C'est la régalade. Voilà. Je vais vous lire quelques messages, vous allez voir. Vous allez voir comment ça met de bonne humeur. Tiens, MMG, bonjour Sam, ça va de mon côté, j'ai un entretien pour du taf cet après-midi, donc optimisme et force. Voilà. J'ai mon café, ma tartine de pain, beurre salé, confiture de tomate, ça va bien. Ah, j'ai goûté ça une fois. Ouais. Hein, quoi? Hein, quoi? Vivement demain, direction Paris, puis Versailles. Pour un week-end en famille, en espérant que le TGV ne subira pas de retard. Ouah. Mais, attendez. C'est les personnes qu'on est censé raid qui raident. C'est-à-dire que nous, on a eu un petit bug technique, on se réjouissait de raid notre ami Star Dust Air Espace, qui en ce moment nous régale avec Artemis 2. Tiens, j'ai un article dans Le Parisien sur Artemis 2. Et donc, on essaye de le raid, ça bug de mon côté, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Le lendemain, on s'est régalé, c'est-à-dire hier matin, on s'est régalé en regardant les photos qu'on peut trouver sur le site que tu as créé, les photos incroyables, on s'est mis à ça avec une petite musique de fou. Voilà. Et donc, moi, j'arrive pas à raid, mais toi, tu nous raides ce matin. Vous êtes incroyable. Merci Stardust Espace, merci à ta communauté. Je suppose que vous étiez sur. Toujours sur la Lune, enfin, cette façon de parler, bien sûr. On va en parler ce matin. Puisque moi, j'ai des infos. Tiens, je vais vous épingler. Merci Sugar, le site où vous pouvez voir toutes ces belles photos, notamment de cette mission lunaire. Artemis 2. Voilà, c'est épinglé, c'est là-haut. Moi, j'ai un article ce matin. Parce que là, les photos, les astronautes. Moi, j'ai un article qui va vous montrer que on n'est pas allé sur la Lune, qu'il n'y a pas d'astronautes dans l'espace. Les astronautes, ils sont pas autour de la Lune, là, ils sont pas en train de revenir. Ils sont dans un studio avec un fond vert, avec des câbles. Pour faire croire qu'ils sont en apesanteur. Les gens qui disent ça sur Internet, c'est pas des fous du bus. C'est vrai. C'est vrai parce que j'ai envie d'y croire. Vous montre le sommaire. C'est vrai, en plus, je vais vous parler de ça. Attendez, attendez. Oh, attendez, il est où mon sommaire? Il est là. Voilà. Troisième sujet, troisième ligne. Les astronautes d'Artemis 2 sont-ils dans un studio? Vous voyez que je vous mens pas. Eh oui! Voilà, il y a un article là-dessus. Donc, je pense que ça va intéresser les amis de la commune de Stardust Air Espace. C'est le tien de complotiste. Non, tu vas voir, l'article est littéralement sur pipi dessus. C'est-à-dire que si vous avez des couches pour adultes. À la maison, n'hésitez pas à les mettre. Voilà. Il n'est pas trop tard de passer à la pharmacie, demander des couches adultes, grande contenance, grande taille. Voilà. Il y a un monde où on va se faire pipi dessus. Ouais. Ça va pas le faire dans l'open space. Si, si, bah si. Bah si, si, justement avec une couche. Merci Docteur Ictus. Merci Elfor Fadoche, merci Gwendoum, merci Arnaud, merci Les Moissonneurs, merci Red Rose, merci Team Rire, merci Super Lalou, merci Caprica 14, ce sont les derniers subs que je n'ai pas remerciés, ce sont les subs de la nuit ça. Merci Alphadex 535, merci Stolichnaya, merci Buden, ça c'est des gens que je n'ai pas remerciés ça, merci XI92. Et à l'instant merci, comment je dis? MQDeln. Magdalen, en tout cas merci. Voilà. Ah. Donc, oui, donc je lisais, moi le chat me met de bonne humeur le matin. Je vais ouvrir des petits messages, s'il n'est pas trop tard, parce que j'ai. Est-ce que je. Ah non, c'est trop tard, je ne vais pas pouvoir remonter. Mais il y avait de l'humour, il y avait des blagues, il y avait de la vie, il y avait du sourire, il y avait plein de choses. Oui, on m'a parlé de la loi Yadon, tout à fait. Ouais. J'adore. Sam, bonjour, pourrais-tu prendre quelques jours de congé afin que je rattrape mon retard? J'ai au moins 6 heures de stream, c'est un. Irrattrapable avec ton rythme, dit Fabricadon. Comment vas-tu? Eh oui, ça stream, ça stream, ça stream, et ça stream 2 fois par jour. Hein, et ça va. Je pense qu'on va restreamer ce soir aussi, puisqu'on va terminer le react de la dernière audition de la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, hein, celle avec Delphine Ernotte. On a fait la P1 hier, la première partie. On va refaire la deuxième ce soir, je pense. Bah, il faut finir, hein, faut finir. On va passer à autre chose, hein, à un moment. Voilà. Et puis. Tu passes nous voir ce soir, ce sera chill. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Oh oui, tu streams ce soir? Stardust? Trop bien. J'espère que ça a marché cette fois. Et samedi, n'oubliez pas, point d'exclamation festival, le festival MVP, ma vie pro, voilà. J'ai créé un festival. Je stream dès qu'ils sont réveillés, donc tous les soirs. C'est incroyable. Ah, ils dorment en plus, les gars, là-haut, là. Oh là là. Donc, Festival MVP, il y aura deux streams en direct du Festival MVP. Surtout, c'est un festival, hein, c'est à Paris pour ceux qui s'interrogent sur leur avenir, ceux qui veulent des infos sur les formations, les parcours, les métiers, les secteurs d'activité. Enfin, c'est MVP, c'est l'émission Ma Vie Pro, mais en festival, voilà, avec plein d'invités incroyables. Il y aura notamment Big Flo et Oli, il y aura notamment Paul Mirabel, parce qu'il y aura aussi des artistes, il y aura des scènes, il y aura des scènes, il y aura des ateliers, il y aura je vais donner des cours de pole dance. Non, c'est pas vrai ça. Plein de choses. Alors, Sakires nous fait dans le chat un comment un test à Paul de Saint-Cernin. Putain, j'ai encore bugué, ouais. Pourquoi je dis Paul Mirabel? Je crois que j'ai bugué encore. Je n'ai pas bu ce café encore. Oui, quelqu'un vient de nous faire un test de toilette japonaise en direct dans le chat. Quelqu'un vient de nous décrire à l'instant, quelqu'un qui est au Japon, un test de toilette japonaise. Vous savez, avec la douche pour les fesses, là. Voilà. Voilà. Littéralement, il vient de nous décrire ça. Non, non, je ne lis pas ce genre de message. Je ne lis pas ce genre de message. Merci à ton cœur. Non, 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 pas. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Oui, le jet qui lave le cucu, voilà. Non, non. Moi, je ne lis pas ce genre de message. En plus, c'est très, très précis. Ça qui reste, ce message est pour toi. Non, non, c'est trop. Il est 9h31 là. Franchement, c'est génial. Okay, alors, chacun y va de son petit avis sur les toilettes japonaises. Voilà. Quel est l'objet du live? C'est un live tous les matins où on parle de l'actualité des WC. WC à la turque, WC à la française, WC à la japonaise, WC connecté, pas connecté, WC à l'ancienne, toilettes sèches aussi. Non, c'est une revue de presse, on parle de l'actualité tous les jours. Mais une petite demi-heure avant, on dit des bêtises pour détendre un petit peu. Ah. Donc, et n'oubliez pas, mardi prochain, réponse cache, épisode 2, il y a quelques mois. Ah oui, les WC spéciaux aussi, qui ont tendance à se boucher, je crois. Le WC d'Artemis qui fonctionne pas, je crois qu'il a été réparé. Hein. La partie 2 de l'audition soir, ça va avoir du 9h30-20h. Et donc, réponse cache 2, on a déjà fait une première édition il y a quelques mois, c'est mardi prochain, pardon, donc jeu de culture générale, quiz, rigolade, petites épreuves marrantes, invité de fou. Monsieur Domingo, Madame Enjoy Phoenix, Madame Bagheera, Monsieur Kevin Tran et un invité surprise. Voilà. C'est mardi, c'est 20h, c'est des mois de travail avec Joe, c'est fou, c'est fun, on aime le fun parce qu'on est jeune, ça va être incroyable, mardi 20h. Voilà. Est-il prévu d'avoir un react sur le replay de la commission Drucker? Non, c'était sans doute une des moins intéressantes. Non, il y a eu. Messieurs Sébastien, Patrick de son prénom, et monsieur, comment s'appelle-t-il, pour l'ancien présentateur de complément d'enquête, de Cardoz, Jacques, ont formulé de nombreuses accusations. Voilà. Mais sans donner aucun exemple, sans donner de nom, sans donner de fait, de date. Bon, moi aussi, je peux dire, les astronautes ne sont pas dans la Lune, ils ne sont pas dans l'espace, ils sont dans un studio et pour faire du clic et du bait. Mais si je ne donne pas de preuves, ça n'a aucun intérêt. Donc non, forcément, non. Pour le coup, ce n'est pas une des auditions les plus intéressantes. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes sur ce qu'est la réalité du paysage audiovisuel français aujourd'hui, public comme privé d'ailleurs. Et on s'est régalé de tout ça. Matérialiste, je vous rappelle, matérialiste des auditions. La première, c'est celle de messieurs Niel, Pigas et Nommé. C'est une masterclass. Ça tire à balles réelles. Les munitions sont infinies. C'est full content. N'allez pas voir Predator. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Ça, c'est en 1. En 2, celle de Nagui était incroyable. Elle était tellement. C'était un tel poulet que on se la regardait d'une traite et on a fait un règle de 7 heures. Voilà. C'est presque trop, mais quand c'est bon. Voilà. Et en 3, ben, alors ex aequo, Élise Lucet, masterclass. L'actuel présentateur de complément d'enquête, Tristan Valex. Mais je me demande s'ils ne sont pas coiffés sur le poteau par Madame Delphine Ernotte, hier soir. Alors, j'ai pas vu celle de Cohen et Legrand, par contre. Là, je bats ma coulpe, je plaide coupable. Donc, et celle de Madame Arnott hier soir qui est assez incroyable aussi et qu'on finit ce soir. Et la mienne, bah, je vais pas me mettre dans les tier listes. D'abord, je suis hors catégorie. Et non, bah, je vais pas me classer moi-même, quoi. Mais je suis pas sûr que la mienne soit la plus intéressante d'ailleurs. Je ne sans fausse modestie, je ne suis pas du niveau. Des gens qu'on vient d'évoquer là. J'aurais aimé. Je me pose quand même une question, me dit Moonshine. On entend beaucoup de réactions pour dire que cette commission a révélé de graves dysfonctionnements. Ah, zut. Mais sans les citer. Si, 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 monsieur à l'oncle, il les cite, ces graves dysfonctionnements. Est-ce que tu en as relevé, toi aussi, après toutes ces auditions? Alors, ces graves dysfonctionnements, si, ils sont évoqués, c'est le cœur de cette commission où l'essentiel des questions a été posé par le rapporteur, et c'est normal, c'est son rôle, monsieur à l'oncle. Et donc, oui, ces graves dysfonctionnements, si tu veux, et aller voir les interviews que monsieur à l'oncle donne à la presse ou les posts qu'il poste sur les réseaux sociaux et ces questions pendant les auditions, tu vas les voir. Alors, moi, mon analyse, mais ce n'est que mon analyse, c'est que ces graves dysfonctionnements. Que des dysfonctionnements existent dans une entreprise comme France Télévisions, une entreprise de la taille de France Télévisions, sûrement. Mais grave, systémique, de nature à remettre cet écosystème en cause, et avec un ton accusateur d'une violence extrême, mettant en cause notamment des personnes, avec une approximation sur les faits, sur les chiffres, sur les notions économiques basiques. En fait, pour résumer mon sentiment sur cette commission, le sujet est essentiel. Le sujet est essentiel. Il est bon de contrôler l'utilisation de l'argent public. La question est importante. Est-ce que l'audiovisuel public français est bien géré? C'est-à-dire est-ce que cet argent est bien utilisé? L'autre question derrière est encore plus importante. Est-ce qu'on a besoin ou non d'un audiovisuel public dans un pays? Je dis un pays parce que il y a beaucoup d'autres pays qui ont un audiovisuel public, parfois avec des budgets beaucoup plus importants que nous. Et donc, toutes ces questions importantes, elles méritaient sûrement une commission. Mais force est de constater que la manière dont M. Alloncle a géré ses auditions, a enquêté, puisque c'est une commission d'enquête, laisse à désirer en termes de rigueur, de travail, de préparation, de pertinence. Et plane sur ce travail essentiel une ombre dénoncée par de nombreuses personnes, dont le président de la commission lui-même, M. Jérémy Pétrier-Lettus, celle d'une instrumentalisation politique de cette commission à des fins d'agenda politique personnel, résumée par M. le président de cette commission par cette question: M. Alloncle avait-il un agenda politique personnel Et s'est-il servi de la Commission pour pousser cet agenda? Et cet agenda est-il, notamment, de devenir le ministre de la Culture de Jordan Bardella, si celui-ci était élu en 2027? Voilà. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le président de la Commission qui pose cette question. Donc voilà, pour répondre à ta question, le sujet est essentiel, mais il a peut-être été maltraité. Quelqu'un hier, est-ce que c'était dans le chat ou est-ce que c'était une députée, je ne sais plus, disait pour résumer en une phrase, est-ce que vous vous souvenez? Quelque chose comme Monsieur Alonck ne s'est pas mis au service de cette commission, il s'est servi de cette commission. Ah, c'était la cause, voilà. Voilà. C'est ça. Mais elle l'a fait avec cause. Voilà. Il n'était pas au service de cette cause, il s'est servi de la cause. Voilà. Bon, en gros, c'est l'idée. Alors qu'il y a des dysfonctionnements, forcément, à France Télévisions, comme il y en a dans toutes les grosses boîtes, tu vois. Moi, j'ai bossé 17 ans, si on m'avait posé les bonnes questions, j'aurais pu vous dire des trucs sur France Télévisions. Mais on a mais c'est pas les bonnes questions qui ont été posées. Donc, ce que je dis là ne dit pas qu'il n'y a pas des soucis à France Télévisions, comme il y en a sûrement dans toutes les grosses boîtes. Voilà. Mais le travail n'a pas été bien fait, quoi. Vous ne vous êtes pas mis au service de la cause, mais la cause à votre service. Oui, c'est un truc comme ça. Voilà, un petit résumé, quoi. Alors, c'est pas fini. Maintenant, monsieur le rapporteur a 10 jours pour écrire son rapport. Voilà. Ensuite, il devrait être voté par la commission. Donc, on va voir ce qu'il y aura dedans. Donc, il y a la suite, c'est la publication du rapport que monsieur le rapporteur doit écrire. Il y a le deuxième épisode du React ce soir. Et puis, il y a l'aspect judiciaire. Il y a l'aspect judiciaire, puisque au moins une plainte a été déposée par l'animateur Nagui contre X à la suite des messages le visant sur Internet. Messages provoqués pour l'essentiel par les déclarations et les posts sur les réseaux sociaux de Monsieur Alonck. Donc il y a aussi un volet judiciaire, puisqu'une plainte a été déposée, au moins une plainte a été déposée par Nagui. Voilà. Donc il y a ces aspects-là qui fait qu'on va continuer à entendre parler de cette petite histoire pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être, parce que ce type de procédure judiciaire peut durer parfois plusieurs années. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Il n'y a pas que ça dans l'actualité, il y a des choses beaucoup plus importantes, hein. On va parler de l'Iran dans un instant, c'est évidemment beaucoup plus important que tout ça. Et quant à moi, puisque je vois des questions qui sur ma situation, comme vous le savez, ayant constaté que Monsieur Alonck a inventé des faits à mon endroit, à mon propos et notamment des chiffres, j'ai donc communiqué ces faits précis et ces chiffres à la commission, demandant à la commission de transmettre à Monsieur Alonck le fait que je lui demandais des excuses publiques. J'attends ses excuses. Et c'est ce qui a fait que monsieur le président Patrick Lettius a repris hier en direct monsieur Alonck quand il est revenu sur mon cas. Et monsieur le président, qui, comme monsieur le rapporteur, a les vrais chiffres que j'ai transmis, a dit je pense, vous avez peut-être vu cet extrait, bon, là, il faut arrêter, faut pas inventer, on peut pas inventer des choses en permanence, quoi. Mais bon, là, voilà, moi, rien, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. J'attends juste les excuses publiques que j'ai demandées, quoi. Salut, Macfilou. Allez, je vous lis encore un petit peu, et puis on va commencer cette revue de presse. Merci, John Dufle Soumineuf. Joli pseudo. Merci, Arthur Rizio. Merci, Idali24. Merci, Poun56. Merci, Nat et son chat. Merci Yann Nounours, c'est quoi ces pseudos? J'adore. Merci Anne, c'est tout. Merci pour les soutiens. Merci Tibet, Darko, Adonkar. Merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Allez, je lis encore un ou deux messages. Et on enchaîne. Alors, moi je suis nature optimiste, vous le savez, il y a quelque chose de positif qui sort de tout ça. On n'a quand même jamais été aussi nombreux à, je pense, à se pencher sur des auditions d'une telle commission, sur le travail des parlementaires. Enfin, voilà, ça provoque aussi une curiosité pour la manière dont les élus travaillent. Et c'est, il en restera quelque chose de positif. Moi, globalement, j'ai vraiment appris plein de choses. J'ai aussi mesuré à quel point c'était un travail qui pouvait être très chronophage pour les élus, quoi. On leur demande bien des choses, mais là, par exemple, on a vu combien il pouvait être difficile d'être à la hauteur, je pense au rapporteur, d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, quoi. Il invite des personnes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience d'un écosystème. Ah, bon, lui, il vient de se découvrir une passion pour le sujet il y a quelques mois. Et c'est pas facile d'être pertinent, d'être précis sur un sujet qu'on maîtrise pas, quoi. Donc c'est pas facile non plus, hein. C'est pas ça évident, moi. Humain, trop humain, hein. Après, ça n'excuse pas de dire n'importe quoi, quoi. À un moment qu'on sait pas, on sait pas, quoi. C'est le souci. Et il y a trop d'enjeux aujourd'hui par rapport à la désinformation, aux fake news, une vraie menace pour nous citoyens, pour la démocratie, pour que qu'un élu de la République ait un comportement aussi léger par rapport à la vérité, bah, ne pose pas problème, quoi. Donc je ne nie pas la difficulté du job, mais nous sommes aussi, nous citoyens, en droit d'être exigeants par rapport au travail de nos représentants, quoi. Mais du coup, ça m'a donné envie de peut-être faire d'autres réacts. Je sais, par exemple, que Jean Massier et Gaspard Gé et d'autres créateurs de contenu ont récemment été entendus au Sénat, notamment sur l'économie qui entoure, si j'ai bien compris, les plateformes et les créateurs de contenu. C'est très récent, hein. En plus, ça nous touche directement, cette histoire. Je me suis dit, tiens, on pourrait regarder ça, quoi. Les médias en ligne, voilà. Regardez ça. Dernière question et puis on enchaîne. Penses-tu que le rapport de Charles Lalonde doit être voté et publié? Au vu des nombreuses fautes, mensonges, approximations, agenda perso, devrait-il être voté ou censuré? Déjà, il faut le voir, ce rapport. Ce rapport, ça va être peut-être une masterclass. Il va être peut-être génialement écrit, super précis, expurgé de toute erreur, de toute approximation, de tout mensonge. Peut-être que après 10 jours de travail, on va se rendre compte que le rapporteur s'est remis en question et a compris des choses et va dire je persiste à penser qu'il y a des trucs à régler à France Télévisions, mais je me suis trompé sur un certain nombre de sujets. Donc d'abord, ce rapport, ça peut être ça. Bon, si ça n'est pas le cas, et qu'il ressemble, ce rapport, à ces 4 mois malheureux, un peu, hein, désolé, hein, d'audition, eh bien, je pense qu'il faut quand même le publier, même s'il n'est pas bon. Pour deux raisons. Hein. D'abord parce que si ce rapport est mauvais, c'est bien de pouvoir le constater, parce que s'il est mauvais, qu'il n'est pas voté par les députés de la commission, on ne pourra pas s'en rendre compte qu'il ne sera pas publié. Et si le rapport il est voté, il est publié, on pourra le lire. Et on dit que les paroles vol et les écrits restent, c'est ça? Bah, on aura des écrits et on pourra aller voir les chiffres, vérifier et dire bah, là ça va pas, etc. Donc déjà, ça nous permettra, nous citoyens, et puis les autres politiques aussi, de s'emparer de ça et de dire bah, c'est du bon travail, c'est pas du bon travail. Et la deuxième raison pour laquelle il faut publier ce rapport, quelle que soit sa qualité, c'est quelque chose que certains élus membres de la commission ont déjà évoqué, c'est que si les autres membres de la commission estiment qu'effectivement ce rapport, c'est du caca, qu'il est mauvais, et qu'il n'y a aucun intérêt de le publier. Le problème, c'est que si ils ne le votent pas, Monsieur Alloncle et son camp pourra crier la censure. Voilà. Avec un narratif que je peux déjà vous écrire, qui est assez évident et prévisible, c'est vous voyez que je dis la vérité, vous voyez que mon travail était de qualité, la preuve, on m'a censuré pour que je ne puisse pas le clamer haut et fort. Donc les députés n'ont pas trop le choix. Ils sont un peu coincés. Donc pour ces deux raisons, il faut le voter. Alors le problème, c'est que normalement, les députés, en votant ce rapport, en votant pour sa publication, quelque part, ils le valident. Alors ça pourra donner un autre narratif, hein, un autre narratif qui est, vous voyez que mon rapport est bon et de qualité et que je dénonce des choses, puisque les autres députés l'ont voté. Quand t'es de mauvaise foi, t'es de mauvaise foi. Bon, voilà. Bon, après, on n'est pas dupes. C'est des petites entourloupes, des petits arrangements avec la réalité. Mais bon, on est grand, on est adulte, on est citoyen, on a un peu d'esprit critique, donc on n'est pas obligé de se faire avoir, quoi. Après, Internet, comme le dit VOD Samuel Mathieu dans le chat, Internet, c'est un outil incroyable pour désinformer, c'est aussi un outil incroyable pour débunker. Allez voir sur les réseaux ce qui se dit de cette commission. Il y a des gens qui disent des énormités et des mensonges, mais sous ces mensonges, il y a aussi des citoyens qui viennent dire, ben bah non, mais c'est pas vrai, et qui donnent des faits. Vous voyez? Bon, faire confiance dans l'esprit critique, quoi. Oui, avec notamment des notes de communauté. Moi, j'ai un des tweets les plus mensongers et violents me visant, je ne sais plus lequel. Ah oui, vous vous rappelez de l'homme au peignoir? L'influenceur de Chypre, avec le peignoir, là, vous vous rappelez? Eh ben, j'y suis retourné récemment à des fins documentaires. Et j'ai découvert qu'il y avait une note de communauté sous son tweet. Des gens qui ont dit, bah non, bah non, frère, tu racontes de la merde. J'étais surpris de voir ça. Oui, le vendeur de formation, là. Ça m'a fait rire. Voilà. Donc voilà, faire confiance aux citoyens, tout simplement. Mais à l'esprit critique. C'était quoi ça? Bah, c'était un influenceur français réfugié pour des raisons fiscales, dit-il lui-même sur son site, hein, à Chypre. Parce que c'est quelqu'un qui a une aversion profonde envers l'État. L'État le plus grand des voleurs, je crois que c'est l'une de ces citations, et contre les impôts aussi. Et donc, depuis Chypre, ils vendent tout un tas de formations pour. Je ne saurais pas trop vous dire quoi. Des formations. Voilà. Et on avait ri beaucoup parce qu'il avait fait une petite vidéo sur l'affaire de la commission au bord de la plage en peignoir. La forme était étonnante, mais la forme n'était rien par rapport au fond. Et j'ai eu la surprise il y a quelques jours en retournant sur ce tweet, à des fins de documentation, de découvrir qu'il y avait une note de la communauté à son endroit. Voilà. On va bosser ou pas, hein? On bosse? On y va? J'ai votre feu vert, j'ai votre go? Go? Allez, on va dire bonjour à nos amis de. Des podcasts audio qui, eux, ont la revue de presse à partir de maintenant. Si vous découvrez cette revue de presse en live sur Twitch alors que vous venez du podcast, parce que certains. Salut, salut Eden! Comment ça va? Eden, c'est mon Hugo, on est d'accord, hein? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est ça, hein? Pour ceux qui découvrent cette revue de presse sur Twitch et qui viennent du podcast audio, sachez que dans le podcast audio, on met que la revue de presse à partir de maintenant. C'est-à-dire c'est Hugo, hein? Salut Hugo. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je suis content de te voir. J'espère que tout va bien de ton côté. Et tout le before, toutes les bêtises, c'est pas dedans, quoi. Donc là, on va commencer la revue de presse stricto sensu. Mais si, puis le bureau, je t'aime aussi. Les derniers subs et on y va. Non, c'était le dernier, c'est John Duff, le sous-mineuf. Je te remercie déjà. Ok, vamos. Hein, quoi? Dis. Samuel, petite question avant, si possible. Est-ce que tu as déjà dansé au Brésil? Oui. D'autres questions? Vite fait, hein, mais bon. Voilà. Il y a des images? C'est ça? On me voit. On me voit en festival ou quoi? La question qui tue. Bah, je ne vais pas mentir. Hein. Oui, ça a dansé au Brésil, ouais. Est-ce que tu as dansé au Brésil avec l'agent de France Télé? Non, à l'époque j'étais salarié de Canal+. Sous Caipirinha, oui. En string et plume, je ne répondrai pas à cette question. On veut la vidéo, les images ont été détruites. Mais ceci est une autre histoire, je vous la raconterai un jour. Merci Réjoxy pour le soutien. Merci le cœur Étienne pour le 30e mois. Il fait froid ce matin. Le sommaire est plus petit que d'habitude. Vous êtes des monstres. Okay. Ils sont bêtes. Vous êtes bêtes. Alors ça, c'est le rock français. Allez, on se cale. C'est parti. Allez, let's go. Sommaire. Ah non, ça c'est hier, ça. Voilà, c'est là. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne, la revue de presse que je propose tous les matins sur Twitch depuis plus de 5 ans maintenant. Alors avant c'était en direct sur Twitch, puis après c'est arrivé en replay sur YouTube. Alors merci à ceux qui sont là ce matin en live sur Twitch avec moi et qui me disent plein de choses rigolotes dans le chat. Merci à ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube. Hein, et merci aussi à ceux depuis septembre qui nous écoutent en podcast audio sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, et n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch aussi, mais en tout cas, d'où que vous nous écoutiez, merci à vous. Et bientôt sur la TNT. Non, on va pas revenir en arrière. Voilà, alors je commence comme tous les jours, en ce jeudi, on est bien jeudi, hein, 9 avril 2026, par le sommaire. Je vous donne l'essentiel de l'actualité en quelques minutes pour commencer et après on développe. Je salue Doudi Lapalga dont le bébé a 1 an aujourd'hui. Félicitations à toi et bon anniversaire à lui ou à elle. Alors, on va, j'ai envie de dire évidemment, commencer par le Moyen-Orient et par l'Iran. C'est l'actualité qui me semble essentielle. Je vous en parle beaucoup depuis de nombreux jours. Il ne nous a pas échappé normalement qu'une trêve a été mise en place à 15 jours a priori de cessation des combats, pas au Liban, a décidé Israël, mais des frappes côté américain contre l'Iran et un détroit d'Ormuz rouvert par les autorités iraniennes. Je vérifie quelque chose. Quelqu'un me dit, est-ce que je peux monter le son de mon micro? Et non, c'est le volume habituel, on ne bouge pas. Donc, une trêve qui pose question, c'est ce que nous disent les journaux ce matin. Trêve incertaine et des questions. J'aime bien cet article du Parisien qui, en fait, en une série de questions et de réponses, nous éclaire un peu là-dessus. Est-ce que ce cessez-le-feu repose sur un véritable plan? Trump peut-il vraiment revendiquer une histoire? Le régime de Téhéran sort-il renforcé ou affaibli de cette crise? Quelles conséquences pour les Iraniens? Les États-Unis et Israël sont-ils en phase? Et est-ce que cela peut accoucher d'une paix durable? Et La Croix fait le même exercice ce matin. Question-réponse. De quelle victoire Trump peut-il se targuer? Que tire l'Iran de cette confrontation? Quels pourraient être les points de blocage des négociations? Hein? Le Pakistan peut-il creuser le sillage de la désescalade? Parce que le Pakistan essaie d'être un trait d'union, un facilitateur de négociations entre les deux parties. Quelles conséquences pour les économies du Golfe? Voilà, je trouve intéressant de vous lire ces deux dossiers ce matin. Je suis avec attention ce qui se passe aussi au Liban en ce moment, puisque l'armée israélienne continue ses frappes sur le Liban, ce qui provoque énormément de victimes. En marge de ce dossier Moyen-Orient, une question. Est-ce qu'il est fada? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est loco? Est-ce que le président Trump a un problème de santé mentale? Là, je ne me permettrai pas de poser cette question, hein, c'est pas moi qui pose la question. Ce sont des élus américains qui s'interrogent, vous le voyez, papier dans Le Monde, page 6, sur la santé mentale de Trump. Des sénateurs ont évoqué la possibilité d'évoquer le 25e amendement permettant de déclarer un chef d'État inapte et de l'éloigner du pouvoir. Voilà, on verra qui sont ces élus et quels sont leurs arguments. Voilà. Je me demande ce qu'on va mettre sur YouTube d'ailleurs aujourd'hui. Ah oui, sur YouTube, je sais ce qu'on mettra. Je sais pas si. Oui, j'ai vu Mathieu qui gère la chaîne YouTube de Papy Sam tout à l'heure. Et en fait, chaque jour, on met un extrait de la revue de presse en avant sur YouTube, quoi. Une actualité en particulier. Et là, je pense qu'on va mettre absolument le sujet d'après, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Est-ce que les astronautes d'Artemis sont vraiment dans l'espace? Est-ce qu'ils sont vraiment allés en direction de la Lune et ont fait des photos? Ou ne sont-ils pas plutôt dans un studio de télévision? Pourquoi le Parisien pose la question? Parce qu'il y a des gens qui le disent sur Internet, sur les Internets, sur le World Wide Web. Bon, là c'est la régalade. Voilà. Ils sont peut-être même dans un studio de France Télévisions, on ne sait pas. Alors, on lira des trucs, des histoires de studios, des histoires de téléphériques. Vous allez me dire, mais quoi? Oui, des histoires de téléphériques. Stardust Air Espace, qui se passionne pour ces sujets, me dit, je suis harcelé de complotistes, on les banne direct. Faut pas les banne. Non, faut pas les banne, faut les mettre dans un petit parc. Voilà. Voilà. Et tu les observes, tu les écoutes. Tu peux même vendre des petits tickets, des petits billets pour que les gens puissent les rencontrer, les entendre, les écouter. Parce qu'il n'y a pas de raison que dans ce monde extrêmement stressant et anxiogène, nous n'ayons pas le droit à un peu de divertissement. Donc je pense que ces gens, faut pas les bannir. Faut les mettre un peu de côté, tu vois. Tu fais un petit parc à Shiny, quoi. Il y a Disneyland. Et moi, je vais lancer un nouveau concept, c'est le parc à Shiny. Voilà. On va les mettre en valeur. Ils créent quelque chose. Alors, ils ne créent pas de l'information, mais ils créent une forme de divertissement. Voilà, on pourrait l'appeler Complot Land. Ouais, Complot Park. Voilà. Avec. Il y aurait c'est comme dans les. Il y a l'employé du mois. Voilà, il y aura le Shiny du mois, par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai plein d'idées comme ça. Faut pas les ban. Faut les garder. Donc, voilà, on pose ces questions. Est-ce qu'ils ne sont pas dans un studio de télévision? Je redeviens sérieux avec... est-ce que c'est un projet de loi ou c'est une proposition de loi? C'est une proposition de loi, je pense. Proposition de loi. Projet de loi quand ça vient du gouvernement, proposition de loi quand ça vient d'un parlementaire. Donc effectivement, c'est une proposition de loi dont vous avez beaucoup entendu parler, la loi Yadan. Et cette actualité, c'est cette pétition qui a dépassé les 500 000 signatures. Une pétition citoyenne appelant les parlementaires à s'opposer au texte porté par la députée Ensemble pour la République Caroline Yadan a dépassé les 500 000 signatures hier. Elle fragilise un peu plus cette proposition de loi controversée visant à sanctionner les formes renouvelées de l'antisémitisme au cœur de débats virulents. Pourquoi cette opposition à ce texte? Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Pourquoi le succès de cette pétition? On ira voir ça aujourd'hui. Question importante aussi, vous êtes peut-être concerné dans le chat, pourquoi est-ce aussi difficile en France quand on est jeune d'accéder au marché de l'emploi? Voilà. Il y a un dossier dans Libération ce matin, alors que le taux de chômage des 15-24 ans est nettement supérieur à celui de l'ensemble de la population active, des experts pointent l'importance de l'accompagnement et éclairent les nouvelles méthodes qui sortent du cadre classique du recrutement. Donc pour les jeunes qui ont vraiment du mal, certains plus que d'autres, à accéder à ce marché de l'emploi, à un premier emploi, pour faire simple, eh ben, il y a des initiatives ici et là qui se mettent en place. Voilà. Avec une évocation dans l'article, et là, vous allez comprendre pourquoi je voulais choisir celui-là, hein, le boulard du gars, le melon du présentateur, quoi. Avec une évocation de Ma Vie Pro, l'émission que j'ai lancée sur Twitch il y a 2 ans, voilà, pour explorer justement les voies professionnelles pour que chacun puisse trouver la sienne. Et je lis cet extrait dans Libération. Certains acteurs cherchent à agir en amont en améliorant l'accès à l'information sur les métiers et les parcours possibles. C'est le cas de Samuel Etienne. Et bim ! Pardon, désolé pour ceux qui dormaient. Journaliste qui officie sur la plateforme Twitch et qui réalise des formats destinés aux jeunes. Voilà. Donc, Et il y a un petit éclairage sur le festival Ma Vie Pro qui se déroule samedi, c'est dans Libé. Ouais, j'ai un peu le boulard. C'est vous les jeunes, oui. 36 ans, c'est jeune? Oui, 36 ans, c'est jeune. Moi, je pense qu'on peut se décréter jeune jusqu'à 49 ans. Voilà, c'est-à-dire que à 50 ans, c'est-à-dire mon âge que j'ai passé déjà, c'est difficile de t'affirmer jeune. Jusque-là, tu peux, hein, tu peux te mentir un peu. Merci Baron Guedin et je kiffe ton pseudo. Je suis encore jeune, Sam, alors à 48 ans selon toi? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Certains députés ont démontré qu'ils sont vieux dans leur tête. Je n'ai pas la ref. Je ne vois pas du tout de qui tu veux parler. Fin du mois de mai, j'ai 40 ans, j'ai pas envie. Captain, oui, moi c'est la cinquantaine qui m'a mis un coup derrière la tête. Je ne fête plus mon anniversaire. Hein. Je ne veux pas me rappeler, je ne veux pas qu'on me rappelle que j'ai passé 50 ans. Voilà. Espèce de mi-vie, quoi. Ouais, on est tous pareils. Hein. La quarantaine aussi, c'était un petit coup, mais la cinquantaine, c'était un gros coup de gourdin derrière la tête, quoi. Paf! Ouais, quarantaine aussi. La trentaine aussi. Moi, j'étais bien à 17 ans, j'aurais voulu que ça s'arrête là. À 17 ans, j'étais bien. L'insouciance. J'avais découvert la poésie, je lisais de la philo, j'avais des potes, on faisait des fêtes, la fin du lycée se passait bien, c'était bien, voilà. Ça a duré 2-3 mois, puis après, après la vie, quoi. Ah là là. Bon, et on finira avec de la musique, avec un article dans le Figaro sur ces nouveaux rockers français, voilà, ces jeunes gens qui revisitent le rock en 2026. Alors je ne connais pas, Bandit Bandit. Alors Dynamite Shakers ou Dynamite Shakers, je sais pas comment il faut le prononcer, à la française ou à l'anglaise, ces groupes qui renouvellent le rock français et qu'est-ce qu'on fera? On ira écouter, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas les Sac à Punk, par contre. Alors qui est un nouveau groupe qu'on a découvert lors d'une audition de la commission sur l'audiovisuel public, avec un groupe français, un nouveau groupe français, les Sac à Punk. Bon, on a découvert que le député qui posait la question voulait en fait parler des Chaka Ponk. Mais sur le coup, on s'est dit, ah, une découverte. Et en fait, non. C'est juste que... C'est comme ça. Alors, elle est pas mal, mon petit sommaire, non? Hein? Vous pensez quoi? Pas mal? Bandit, bandit, très cool, mais n'oubliez pas acide gras pour la scène punk. Peut-être que l'article en parle, hein? Merci Léana. Il y a un sondage que Samuel est. J'ai pas vu. Samuel est jeune, 2%. Waouh, c'est pas beaucoup. Hein. Beau. Oh, c'est gentil. Beau, 4%. Jeune et beau, 40%. Waouh, très frais, 54%. Waouh. Attends, je vais montrer ça à mon épouse. Je fais une capture d'écran. Hein. Ah merde, je viens de me prendre en selfie. T'imagines? Tu vois le passé un certain âge, souvent les gens ils veulent prendre des selfies puis ils y arrivent pas parce qu'ils savent pas où c'est le truc pour tu sais switcher. Vous connaissez ce genre de situation-là? J'ai pas trop l'habitude avec le téléphone là. Où il est le truc, vous voyez? Non, je vais me prendre en selfie là. Hein? Vous connaissez ça? Vous avez déjà vu ça, non? Merci Miss Bulle, merci Réjoxy. Bon, on y go? C'est parti? Oh non, Fabrica, donc plein d'inconnus qui m'ont demandé de les prendre en photo dans la rue ont une photo de moi dans leur tel parce que c'est ma best blague ever. Oh là 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 là. C'est dur ça. C'est dur. Ok, c'est parti. Évidemment qu'on commence par l'Iran. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trêve? Est-ce qu'elle va tenir? Où on en est de cette guerre? Quels sont les objectifs de guerre de Trump? Le sait-il lui-même? Ah, c'est parti. On a deux dossiers qui se veulent un peu didactiques, pédagogiques dans Le Parisien et dans La Croix ce matin pour répondre à ces questions. une trêve donc incertaine. Je vous rappelle que c'est une trêve de 15 jours, a priori, entre l'Iran et les États-Unis. Une trêve incertaine, nous dit le Parisien, il y a des questions. Après 40 jours d'escalade verbale et militaire, Washington et Téhéran s'accordent une détente de 2 semaines. Bon, les marchés financiers ont beaucoup aimé. Le cours du pétrole aussi, qui a baissé. Ce cessez-le-feu fragile laisse planer de nombreuses incertitudes. Je pense qu'il était important d'en parler ce matin. Il menaçait de détruire le pays en une seule nuit, hein, ce que certains ont qualifié de propos génocidaires. On parle des propos de Trump, hein. Il menaçait de détruire le pays en une seule nuit, puis d'anéantir une civilisation entière. Ce sont des mots prononcés par Trump. En quelques jours, Trump a fait monter la pression jusqu'au point de rupture. Et pourtant, à l'heure décisive, le scénario s'est infléchi. Face à un cessez-le-feu, place un cessez-le-feu de 2 semaines, alors que l'ultimatum imposé par le président américain sur la réouverture du détroit d'Ormuz arrivait à échéance dans la nuit de lundi, non, de mardi à mercredi. C'est parce que ça, l'article ne le rappelle pas. Téhéran et Washington semblaient avoir arraché un compromis provisoire. Une trêve toutefois précaire, le vice-président américain, Jed Evans, a lui-même mis en garde contre sa fragilité. En coulisses, un plan iranien en 10 points, jugé viable, pourrait bien servir de base aux négociations censées démarrer vendredi, peut-être sous la houlette du Pakistan. Alors, plan de paix en 10 points proposé par l'Iran. Déjà là, il y a un problème. On s'est rendu compte hier que selon le texte qu'on prenait, c'est-à-dire le texte en farsi proposé par l'Iran et le texte traduit en anglais, eh bien, ce n'était pas tout à fait le même plan de paix, ce qui est ennuyeux. Par exemple, dans le plan iranien en farsi, il y avait l'autorisation donnée à l'Iran de poursuivre son programme de développement nucléaire, ce dont ne veut pas entendre parler les États-Unis. Donc, on va voir de quoi ils vont parler. Alors, question-réponse dans le Parisien. Ce cessez-le-feu repose-t-il sur un véritable plan? À toutes les blagues dans le chat que je vois là sur les tomates farcies, c'est non. Je ne relève pas. C'est non, c'est non, c'est non. Même si c'est très bon. Non. Eh oui, je vous lis. Voilà, j'ai un œil là, hein, j'ai un œil là. Est-ce que ce cessez-le-feu repose sur un véritable plan? Déjà, le cessez-le-feu ne tient pour l'heure qu'à un fragile échafaudage diplomatique arraché par le Pakistan. Je vous le disais, le vrai rendez-vous est fixé vendredi à Islamabad, Islamabad, Pakistan. L'Iran a diffusé publiquement un plan en 10 points, le plan dont je vous parlais. Au menu, levée des sanctions contre l'Iran, maintien du contrôle du détroit d'Ormuz par Téhéran. Donc ça veut dire le détroit d'Ormuz dont le passage était libre et gratuit avant, ça devient un détroit avec un péage. Merci Trump. Retrait des forces américaines et paiement de réparation à l'Iran. Alors, pardon, hein, sans même parler du programme nucléaire iranien, les Américains qui seraient OK, enfin, non, Trump qui serait OK pour que désormais il y ait un péage de Trois d'Hormuz, qui serait OK pour le paiement de réparation à l'Iran pour reconstruire le pays, je ne vois pas dans quel monde Trump peut dire oui à ça, quoi. Mais bon. Si on examine les points avancés par la partie iranienne dans sa version en farsi, je vous en parlais, farsi FARSI bien sûr, 80% paraissent irrecevables pour les Américains, merci. Il y a clairement un jeu de dupes derrière cet accord, tranche le spécialiste David Rigoulet-Rose. Je ne connais pas Monsieur Rigoulet-Rose, mais je suis d'accord avec lui. 8 mesures sur 10 renforceraient même Téhéran par rapport à l'avant-guerre, selon le Grand Continent. Un haut responsable de la Maison Blanche a assuré que ce plan en 10 points repris par les médias n'était pas le document qui servira de base aux négociations, hein, lesquelles ne seront d'ailleurs pas publiques. Déjà, les couacs s'accumulent. L'Iran revendique un droit à l'enrichissement d'uranium, c'est ce que je vous disais, quand Donald Trump assure que les États-Unis vont travailler avec Téhéran pour extraire une poussière nucléaire enfouie profondément. Sur le terrain, la trêve vacille. Des frappes ont été entendues à Bahreïn ou aux Émirats Arabes Unis, alors qu'on est censé être en trêve, hein, et qui aura intercepté 17 missiles et 35 drones depuis le début du cessez-le-feu. V'là le cessez-le-feu, hein. L'Iran affirme de son côté avoir abattu un drone ennemi, menaçant de riposter à toute violation du cessez-le-feu. Voilà. Donc, trêve fragile. Et quid des négociations? Ok, premier point. Deuxième point, est-ce que Trump peut revendiquer une victoire? Alors, il peut. Trump, il l'a théorisé, ça. Ne jamais reconnaître une défaite. En business, Jamais dire que tu t'es trompé. Même si tu t'es trompé, jamais dire que c'est un échec, même si c'est un échec. Toujours clamer que tu as gagné. Hein, Donald, t'es un winner. Trump peut-il revendiquer une victoire? Trump a immédiatement crié victoire, bon, comme d'hab. Hein. Sur son réseau Truth Social, il martèle que les États-Unis ont déjà atteint et dépassé tous les objectifs militaires. Bon, on n'a jamais trop compris les objectifs, mais ils ont été dépassés. Le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, enfonce le clou. Leur industrie de défense est complètement détruite. Ils ne peuvent plus fabriquer de missiles ou des drones. Derrière la posture de winner, mais putain, mais je n'ai pas lu l'article. Hein, je l'ai lu en diagonale. J'ai vu que l'ossature du papier était intéressante. Je me suis dit, je vais le proposer à nos amis de Twitch, de YouTube et de podcast. Mais je préchote, je préchote, je préchote. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Derrière la posture de winner, il semble que la trêve tient surtout du répit stratégique et à mon sens, des deux côtés. Si cette trêve a été signée, c'est que les États-Unis, comme l'Iran, avaient intérêt à cette trêve. L'Iran peut-être pour se réorganiser, et peut-être même militairement. Et côté américain, d'une manière évidente, pour refaire partir les marchés à la hausse, baisser les tensions inflationnistes, baisser le cours du pétrole à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis. Donc, côté américain, le conflit coûterait environ 500 millions de dollars par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les sommes sont gigantesques. 500 millions de dollars par jour.
Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Armina?
500 millions de dollars par jour. Ouais. Soit près de 31 milliards.
Combien?
31 milliards. Englouti depuis le début des opérations, selon plusieurs think tanks, centres de réflexion. À cette facture colossale s'ajoutent 13 soldats tués et plus de 200 blessés. Un bilan qui fait tache pour le chantre d'America First, qui jurait pendant sa dernière campagne en 2024 « Je ne vais pas déclencher une guerre, je vais mettre fin aux guerres ». Sur le front intérieur, la pression monte. Bon, ça, j'aurais pu faire une parenthèse là-dessus. C'est vrai que l'un des arguments qui a touché l'électorat de Trump pour se faire élire pour ses deux mandats, il y a notamment la promesse de ne plus que le pays ne s'engage plus sur des conflits, des théâtres de guerre extérieure et ne risque plus la vie de soldats américains à l'étranger. Voilà, c'est une promesse qui a été faite à son électorat, notamment au camp MAGA, quoi. Bon, il se trouve que c'est pas ce qui se passe dans ce deuxième mandat, quoi. Sur le front intérieur, d'ailleurs, la pression monte. D'après Ipsos USA, 43% des Américains désapprouvent les frappes en Iran, brèche dans laquelle s'engouffrent les démocrates. Sur Internet, le sénateur Chris Murphy fustige un niveau d'incompétence stupéfiant. Donc voilà pour Trump peut-il revendiquer une victoire. Est-ce que le régime de Téhéran sera renforcé ou affaibli? Parce qu'à un moment, il faut quand même se poser la question du peuple iranien dans cette histoire. À Téhéran, les médias d'État crient à la victoire contre les États-Unis et Israël. Là aussi, ce récit triomphant masque un coup massif et peu reluisant. La stratégie israélo-américaine a décapité le sommet du régime. Plusieurs personnalités éliminées, vous le savez. Le guide suprême Ali Khamenei, le pilier de la sécurité Ali Larijani. 48 dirigeants auraient été tués au total. Merci Zazou, merci Kigon, merci Swetcha, vous êtes incroyable. Merci Jack, 99,999. Merci Miss Bull. Pourtant, le régime tient. Où en sommes-nous maintenant? Le régime est toujours fermement au pouvoir. Hein, ses capacités de missiles sont endommagées, mais intactes. Et le régime, tu as raison, Lucie Liberté, et le régime continue les exécutions en Iran. Tu as raison, tu as raison. Il détient environ encore 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Donc, même s'il est touché, frappé, affaibli, le régime est toujours en place. Alors, enfin, et les Iraniens et les Iraniennes, quelles conséquences pour les Iraniens? Il y a trois perdants. Trump, Netanyahou. Alors, Netanyahou, perdant, je ne suis pas d'accord avec l'analyse, mais peu importe. Je trouve qu'au contraire, lui, ça renforce son pouvoir en Israël. Voilà. Ça affaiblit les critiques politiques en interne. Voilà. Netanyahou a besoin de la guerre. pour rester au pouvoir en Israël. La guerre ici contre l'Iran et la guerre au quotidien contre le peuple palestinien, vous le savez. Donc je ne suis pas d'accord avec l'analyse, mais peut-être que je me trompe. Donc trois perdants, Trump, Netanyahou et le peuple iranien, déplore Dominique Moïsi, géopolitologue, un excellent géopolitologue, ancien professeur à Harvard. Sur le terrain, le coût humain est vertigineux. Près de 1600 civils tués, selon l'ONG Human Rights Activists New Agency. 93 bâtiments, immeubles, résidentiels, commerciaux détruits. Et une monnaie en chute libre. Parallèlement, le régime resserre son étau. Lucie Liberté dans le chat à l'instant nous rappelait que les exécutions se poursuivent en Iran. Hein. Ben voilà, le tue après shot. L'exécution de prisonniers s'intensifie. De retour en France, c'est mercredi, quelques mots des anciens otages français Cécile Collère et Jacques Paris ont donné un aperçu de l'enfer dans lequel ils ont été plongés pendant 3 ans et demi, une détention inhumaine faite d'horreurs quotidiennes et d'arbitraire permanent. Je vous lis un petit peu et j'enchaîne avec la suite des questions. Au final, ça n'a rien changé pour les Iraniens, dit Little Kimou. C'est pire, en fait. La situation au quotidien est même pire qu'avant. Metsui, comment une menace de génocide peut passer tranquillement? J'avoue que sur ce coup, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de sanctions. Mais qui veut, le problème, c'est qui peut sanctionner Trump? Le Congrès, éventuellement. Mais alors certains élus au Congrès américain se sont émus de cette menace génocidaire, hein, menace de faire disparaître une civilisation. Mais pour qu'il y ait une sanction, comme tu le dis, une procédure d'impeachment, par exemple, de destitution, bah, il faut qu'il y ait une majorité très forte au Congrès pour le faire. Et à ce jour, cette majorité pour sanctionner Trump au Congrès, elle n'existe pas. Continuons. Les États-Unis et Israël sont-ils en phase, hein, dans leurs actions coordonnées contre l'Iran? Jusqu'au dernier moment, Netanyahou a semblé traîner des pieds face à cette trêve. Quelques heures avant son annonce, finalement acceptée par Israël, mais sans inclure le Liban qui a essuyé un déluge de frappes ce mercredi, il y a de très très nombreux morts au Liban. Le Premier ministre, qui a fait la lutte contre l'Iran la matrice de sa carrière politique, appelait encore sur Internet à écraser le régime de la terreur en Iran, mais constate Dominique Moïsi, le chercheur, la poursuite des opérations au Liban pourrait rapidement isoler Israël. À l'intérieur, le soutien s'érode. Ah, c'est pour ça que Dominique Moïsi dit ça. Je ne comprenais pas pourquoi Dominique Moïsi, le chercheur, disait que Netanyahou était perdant dans ce conflit, ce qui est pas mon analyse. Et en fait, Moïsi, il cite un sondage, une étude selon laquelle fin février, près de 80% des Israéliens appuyaient les frappes contre le Hezbollah, contre 60% un mois plus tard. Ouais. Ouais, vite fait. 60%, ça reste gigantesque. Je vous lis. Ouais, ça reste énorme, bien sûr. Est-ce que cela peut accoucher d'une paix durable? Hein, le scepticisme domine. Je ne vois pas d'accord de paix. Les positions des partis sont trop éloignées. On vient de voir, hein, tout à l'heure le contenu du plan de paix de l'Iran. Mais ça peut mener à une trêve longue. Salut, Olivier. À une trêve longue. Estime le chercheur, en cause de divergences profondes, notamment sur le nucléaire, le plan lui-même est inacceptable pour les Américains et les Israéliens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Autre point de blocage, le soutien de l'Iran à des groupes tels que le Hezbollah sera un point de vigilance majeur pour Israël. Ajoute un autre chercheur qui s'appelle Rachid Shaker. Je vous lis, hein. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que Lacroix a réalisé le même exercice ce matin, question-réponse sur ce qui se passe en Iran actuellement, et on va voir si les analyses sont les mêmes et si les infos sont les mêmes. Je trouve que sur un sujet aussi important, c'est bien d'avoir plusieurs sources. Après 40 jours de guerre, la trêve de 2 semaines annoncée par Trump mardi 7 avril, donc il y a 2 jours, et les négociations prévues vendredi, donc demain, au Pakistan, ne permettent pas d'entrevoir une sortie de crise durable. De quelle victoire Trump peut-il se targuer? Nous dit Lacroix. 10 heures après avoir menacé d'éradiquer toute la civilisation iranienne, pardon, mais ces mots sont juste fous quand même, hein. Ces mots sont fous. Vous avez le président des États-Unis qui, mot pour mot, a dit que le projet était, en cas de non-levée du blocage du détroit d'Ormuz, d'éradiquer une civilisation. D'où les accusations sur des propos génocidaires. Donc, 10 heures après avoir brandi cette menace, Trump a opéré un retournement inédit mardi en suspendant les bombardements, les attaques pendant 2 semaines, si Téhéran rouvrait complètement le détroit d'Ormuz. Il s'est ensuite targué d'avoir décroché une victoire totale et complète, comme pour justifier une sortie honorable à cette guerre impopulaire aux États-Unis. Hein, Trump dégringole dans les sondages d'opinion aux États-Unis. Et coûteuse, un demi-milliard de dollars par jour, lancée le 28 février. Les États-Unis se sont retrouvés dans une impasse stratégique après plusieurs semaines de guerre, sans aucune option militaire viable pour atteindre leurs objectifs déclarés, explique Michael Hanna, qui est un chercheur. De fait, après 40 jours de bombardement, la République islamique n'est pas tombée, son stock nucléaire n'a pas été détruit, vous le savez. Mais au-delà de la capacité ou non de Trump à réussir là où ses prédécesseurs ont échoué depuis 20 ans, hein, trouver un règlement politique avec l'Iran, le sujet est très ancien, un constat s'impose, son entreprise guerrière, ses errances stratégiques, sa rhétorique alarmante auront des conséquences économiques et géopolitiques durables dans la région et au-delà. La relation entre les États-Unis et ses alliés ayant été durablement éprouvée. Un quid de la relation aujourd'hui entre les États-Unis et les pays du Golfe? Quid de la relation aujourd'hui entre les États-Unis et les pays de l'OTAN? Quid de la relation aujourd'hui entre les États-Unis et les pays européens? Cette relation, elle est encore un peu plus abîmée. Merci, Diesel. L'Iran maintenant, qu'est-ce que l'Iran tire de cette confrontation? Hein, le régime est toujours en place, vous le savez. Signe que Téhéran revendique aussi une grande victoire, l'annonce d'une trêve a été accueillie par des manifestations pro-régime, des drapeaux américains et israéliens brûlés et des cris de mort à l'Amérique, mort à Israël, mort au compromis. Si la République islamique a subi des dommages considérables dans ses rangs, à commander par la mort du guide suprême Khamenei, et sur son territoire, 13 000 frappes en 6 semaines, elle s'est montrée capable de mener une guerre asymétrique, non pas frontale mais asymétrique, en allant taper les pays du Golfe, vous le savez, avec les conséquences économiques que ça a, et de s'imposer comme la gardienne du détroit d'Ormuz malgré une puissance de feu américano-israélienne inédite. Quant au régime, il en ressort consolidé, non pas affaibli, mais consolidé, avec un pouvoir accru entre les mains des gardiens de la révolution. Quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure, j'ai pas relevé ton message, je m'excuse. Certains disent qu'aujourd'hui le pouvoir en Iran, il n'est pas aux mains des mollahs, hein, mais des gardiens de la révolution. Lacroix semble d'accord avec cette analyse. Cette guerre non nécessaire n'a pas seulement constitué une erreur stratégique, loin de provoquer un changement de régime, elle a probablement donné un nouveau souffle à la théocratie iranienne, analyse Trita Parsi, vice-président de l'Institut Quincy. Les grands perdants du conflit seront indéniablement les civils, réprimés dans le sang lors des manifestations de janvier. Certains parlent d'un bilan qui pourrait atteindre les 30 000 morts, soumis à une crise économique terrible depuis des années. Terrorisés par les bombardements américano-israéliens, les Iraniens ont vu leurs espoirs de changement de régime se dissiper rapidement. Mais avec ou sans trêve, la population reste à la merci de la vague d'arrestations et d'exécutions lancées par le régime afin d'étouffer toute velléité de contestation. Les Iraniens qui sont menacés au quotidien par les frappes américaines et israéliennes et par le régime iranien, hein, qui peuvent être arrêtés à tout moment pour telle ou telle raison, hein, et condamnés à mort puisque la peine de mort... est toujours appliqué en Iran. Je lis ce dernier passage. Je vous lis un petit peu avant. finalement tout ça pourquoi, nous dit Hammer à propos de Trump, il a perdu sur tous les plans, économie, finance, opinion publique, diplomatie, image à l'international, même militairement, on ne peut pas dire qu'il ait gagné. Alors, quels pourraient être les points de blocage des négociations? On a vu que le Parisien, ces points de blocage, ils sont multiples, ils sont nombreux. Hormis la question libanaise, mentionnée dans le cessez-le-feu selon les Iraniens, mais pas selon les Israéliens, le sujet du nucléaire restera au cœur des négos. Selon nos informations, Téhéran est déterminé à ne pas relancer, de renoncer à son programme nucléaire, ce qui me semble évident. Jugeant qu'il a un droit inaliénable de le poursuivre. Mais comment peut-il s'accorder avec l'exigence américano-israélienne d'en finir? La sécurité du détroit d'Ormuz pour être un autre point de blocage. Les Iraniens veulent garder la main sur ce verrou stratégique. Voilà. Je ne vois pas comment les États-Unis peuvent accepter ça. Par ailleurs, Téhéran revendique le retrait des forces armées américaines de la région. Difficile d'imaginer que Washington accepte de s'y plier entièrement. Idem pour les réparations. L'Iran souhaite que les États-Unis souhaitent des compensations financières, versent des compensations financières pour les destructions infligées. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vois pas comment les États-Unis peuvent accepter toutes ces conditions. Et puis une dernière question, c'est sur le... Ah non, non, il y a une deuxième page. Il reste deux questions. Sur le Pakistan et sur les économies du Golfe. Alors le Pakistan, quel rôle joue le Pakistan en ce moment et peut-il apaiser la situation? En tout cas, c'est l'intention du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, qui a invité donc demain vendredi des délégations iraniennes et américaines à Islamabad. Aucun pays ne paraît mieux placé que le Pakistan pour aider à sortir de l'impasse de la guerre. Pakistan qui partage 900 km de frontière avec l'Iran, qui entretient de bonnes relations avec Washington et avec Israël, voudrait s'appuyer sur ce premier succès diplomatique. Plongé dans une crise énergétique sévère depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, le Pakistan, hein, qui a dû prendre des mesures assez radicales hein, face à la hausse des prix de l'énergie, il a tout intérêt à décrocher un accord d'Islamabad plus large. En tant que puissance nucléaire, qui a noué un accord de défense avec l'Arabie Saoudite, le Pakistan est loin d'être un allié de l'Iran. On peut douter donc de sa capacité à recueillir la confiance du régime iranien, mais l'Iran n'a pas vraiment d'amis et n'a pas donc beaucoup de choix. Alors cette phrase est géniale parce qu'elle soulève plein de questions. L'Iran n'a pas vraiment d'amis. Sur le papier, la Russie est censée être un allié de l'Iran. Vladimir Poutine est étonnamment discret sur le sujet. Sur le papier, la Chine est censée aussi être un allié de l'Iran. Même chose, Pékin estime qu'il a des choses plus importantes à gérer. En tant que puissance nucléaire, ça je vous l'ai dit, je suis en train de redire les mêmes choses, je suis débile. Donc, voilà, le Pakistan pourrait jouer un rôle de facilitateur entre les deux parties. Mais est-ce qu'il peut jouer aussi ce rôle de pacificateur sur des désaccords aussi importants que celle du nucléaire? Là, le journal La Croix est un peu pessimiste là-dessus. Et on termine avec... Pardon, je lis un message intéressant de Lazaret, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué encore ici et qu'on traitera un jour. Encore un cas soupçonné de délit d'initié aux États-Unis. Hier, quelqu'un a parié sur une chute du cours du pétrole une heure avant l'annonce de Trump du cessez-le-feu. Énorme gain depuis le début de cette guerre. Il y a beaucoup de faits hyper étranges autour de la bourse de gens qui parient des sommes gigantesques sur des baisses ou des remontées de cours, hein, comme s'ils savaient quelques heures avant des annonces qui allaient être faites par les autorités américaines. Donc voilà, il y a d'énormes soupçons aux États-Unis. Alors là, je ne suis pas en mode complotiste. Il y a des médias extrêmement sérieux qui ont publié des articles ces derniers jours sur le fait qu'aux États-Unis, il y a des soupçons gigantesques sur des délits d'initiés avec des fuites venant a priori... De l'État américain, de l'administration américaine, vers des intérêts privés pour que ces gens se remplissent les fouilles. Voilà. Donc là, je surveille le sujet, bien sûr, et dès que je trouve un article un peu complet, un peu documenté, un peu carré là-dessus, je vous le lirai, bien sûr. Il faut bien payer la guerre. Ça, c'est de l'argent qui va dans des poches privées. Hein. C'est pas de l'argent qui va dans les caisses de l'État américain. Ça paye pas la guerre, ça paye plutôt les yachts. Et les îles privées. Ouh, mon diesel qui m'emmène sur une autre histoire. Puisqu'on parle d'économie, quelles conséquences pour les économies du Golfe? Les pays du Golfe, victimes collatérales du conflit, se sont félicités du cessez-le-feu annoncé par Trump. Tu m'étonnes, c'est un enfer pour ces économies. Un haut responsable des Émirats arabes unis parle d'une victoire émirienne face à l'Iran. Ok. Peu avant la trêve, le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn avertit Téhéran que la patience et la retenue des pays du Golfe avaient des limites. On s'est posé la question il y a quelques jours de savoir si les pays du Golfe qui ont investi massivement dans leur défense ces dernières années et décennies n'allaient pas intervenir pour taper à leur tour l'Iran. À ce jour, non, hein. À ce jour, ils sont dans une posture strictement défensive. Mais il y avait cette menace, effectivement, avant la trêve. Installations pétrochimiques et pétrolières endommagées, port de Dubaï par lequel passent les approvisionnements de tous les pays à l'arrêt en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, trafic aérien en ralenti. Pour les économies qui ont, dont pour des pays dont l'économie est basée notamment sur le pétrole et ou sur le tourisme, ce conflit est une catastrophe. En 40 jours de guerre, les monarchies de la région, abondamment visées par les drones et les missiles iraniens, ont réalisé à quel point leur modèle économique dépendant du pétrole, du commerce et du tourisme était menacé. Selon le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PIB régional pourrait chuter jusqu'à 8,5%. Tandis que la sécurité humaine, notamment l'accès à l'eau via les usines de désalinisation, devient une préoccupation critique. Sans compter les events organisés là-bas, reportés ou annulés. C'est-à-dire, il y avait des streamers et des streameuses qui avaient prévu de faire des trucs à Dubaï. Tu parles d'events sportifs. Tu parles peut-être d'events sportifs, peut-être. Il y a des events sportifs? La F1? Ah, mais MMG, c'est un passionné de F1. Conférence, rencontre sportive? Ok, d'accord. Festival, concert, ok. Alors moi, c'est des pays où je suis jamais allé de ma vie. Jamais. Je crois que c'est ouais, c'est vraiment une zone que je connais pas du tout. Le The Event à Dubaï. Ah, il y a deux grands prix annulés. Bahreïn et Jeddah. D'accord. Salut Samuel, tu lis pas Paris Match avec leur une du jour qui humanise Bardella et le RN avec une histoire très préfabriquée. Non, je lis pas Paris Match. Non, non, je lis pas ça. Non, c'est on a d'autres sources ici. Donc je finis l'article. Face à la menace qui pèse sur leurs économies et leur mode de vie, les pays du Golfe insistent pour avoir leur mot à dire dans toute future négociation de paix. Mais ils sont divisés sur la voie à suivre et sur la nature des relations à entretenir avec l'Iran comme avec les États-Unis. En vrai, ça pourrait être drôle de lire Paris Match où j'ai cru voir qu'il y avait un numéro sur Monsieur Bardella et son amoureuse, c'est ça, non? Moi, je suis pas abonné, hein, je lis pas Paris Match, mais c'est ça l'histoire? C'est ça, hein? J'ai vu ça sur Internet. C'est ça? Avec une princesse? Je vais pas en faire un titre, mais on peut jeter un œil, hein. Alors, je vois la presse qui en parle, oui, effectivement. Madame Figaro? Jordan Bardella officialise sa relation avec la princesse Maria Carolina de Bourbon. Pardon pour le coup de blanc dans les yeux, là. Donc, c'est la jeune femme à droite. Sans démentir la rumeur, le président du RN, je sais pas pourquoi je lis ça, ça n'a aucun sens, hein, ces trucs people, là. C'est vraiment pour faire plaisir. Hein. Sans démentir la rumeur, le président du RN refusait jusqu'à présent de la commenter, estimant que sa vie privée constituait son dernier espace de liberté. L'idylle. Merde, putain, on passe de l'Iran à ça, quoi. L'idylle entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles alimentait depuis 3 mois les spéculations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis ce 13 janvier, précisément, lorsqu'ils avaient été filmés de loin, descendant ensemble les marches du Grand Palais à Paris, où le Figaro célébrait son bicentenaire. Leur relation est désormais officielle. Bon, c'est ça l'info, quoi. Le président du RN, 30 ans, et la princesse, descendant d'une prestigieuse et richissime lignée aristocratique italienne, 22 ans, s'affichent ce jeudi en une de Paris Match. Poi, poi, poi. Sans se prêter explicitement au jeu de la pose, le couple laisse toutefois transparaître une communication savamment orchestrée. Ah! Il y aurait un peu de com' derrière ça? On a la photo là? Ah, ça, c'est. Eh, je vois vraiment pas où est la, je vois vraiment pas où est la com', hein. Ça, c'est une photo naturelle, ça. Ça? De la com', ça? Ça, c'est une photo naturelle, ça. Ça, c'est une photo du quotidien, ça. Y a un article. Depuis leur rencontre en mai dernier, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella ne se quittent plus. Paris Match les a surpris en Corse. Ce matin-là, à Ajaccio, la lumière avait cette douceur qui suspend le cours du temps. Entre la Méditerranée et les reliefs silencieux, tout paraissait s'accorder dans une harmonie presque irréelle. Les Corses connaissent ce miracle. Les îles sanguinaires, ces 4 îlots mystérieux situés à l'extrémité du golfe, c'est dans ce décor où chaque pierre semble chargée de mémoire qu'une scène inattendue s'est offerte au regard. Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles marchant côte à côte. Il faut dire que leur élégance détonne parmi ces promeneurs en basket et coupe-vent. Ces gueux! C'est quoi cet article? Jean Levi's pour lui, pull marine sur une chemise avec cravate, même en mode détente, on reste un responsable politique. Blouse cintrée pour elle, léger talon et un pantalon taille haute qui épouse sa silhouette parfaite. Pas comme les gueux là en Kawaii là, hein? On vous voit là les Corses là. Une élégance classique, un couple incroyablement atypique, d'un côté un politique issu du peuple, à l'ascension indéniable, de l'autre une princesse issue. Oh putain, j'en peux plus. Une princesse issue de la plus haute noblesse. Allure souveraine, tempérament résolu, héritière d'un rang qu'elle ne conçoit ni comme un privilège ni comme une parure. Elle le rappelle sans détour, être princesse n'est pas un conte de fées, mais une vie faite de devoirs et de responsabilités. Ah, faut être abonné? Ah merde, je suis pas abonné. J'ai pas la suite, je suis désolé. Faut être abonné. C'est dommage, j'aurais bien voulu. Alors nous, on est. Ah. Ah, il y avait le Huffington Post qui fait un article sur le sujet aussi. Sans doute un public critique, sans doute. Les photos prises en Corse les montrent ensemble sans ambiguïté, présentées comme des images prises par surprise. Surprise! Elle participe néanmoins à une exposition très encadrée. En les publiant en une, Paris Match leur offre une exposition bien plus large que lors de leurs premières apparitions, avec une présence assurée dans la plupart des salles d'attente et salons de coiffure de toute la France, bien au-delà des réseaux sociaux et de la presse people. Mais c'est Trump! Non, mais ce truc est sans fin! Bon, écoutez, si j'avais su, j'en aurais fait un sujet. Mais bon, non, j'en aurais pas fait un sujet. C'est pas un sujet. Voilà. À moins qu'il y ait une analyse politique de tout ça à faire, comme commence à le faire le HuffPost dans cet article. Ok, bon, c'était une petite pause. C'était une petite pause. Voilà. Moi, je reviens à une question qui me semble plus importante. Est-ce qu'il est loco? El presidente de los Estados Unidos está loco ou no? Bah, est-ce que c'est le fou du bus ou pas, quoi? Donc, c'est une question que se posent certains élus américains. Dans Le Monde, page 6, des élus américains s'interrogent sur la santé mentale de Trump. Des sénateurs ont évoqué la possibilité d'invoquer le 25e amendement permettant de déclarer un chef d'État inapte et de l'éloigner du pouvoir. Vous allez voir, l'article est assez rigoureux, assez bien construit. Là, je fais le malin, là, mais c'est intéressant. En correspondance à Washington de Piotr Smolar, qui est un journaliste que je découvre, qui a une très belle signature, très beaux articles. On a lu pas mal d'articles de lui depuis les États-Unis. C'est le correspondant à Washington du Monde et vraiment des articles très intéressants. Merci Genmo, merci Zazou, merci à tous. Le président des États-Unis, Donald Trump, donc, a employé un langage génocidaire à l'encontre de l'Iran mardi 7 avril, avant de finalement reporter de 2 semaines son ultimatum. Une civilisation entière mourra ce soir, a-t-il écrit sur Internet, pour ne plus jamais renaître. C'est ce qu'on appelle un propos génocidaire. Tandis que les commentateurs spéculaient, comme à chaque menace du magnat, sur ses supposés calculs de négociateur et son sens de l'hyperbole, genre il en fait des caisses, hein, c'est son art du deal pour essayer d'obtenir quelque chose. Une réalité s'imposait, frustré par la résistance du régime iranien qu'il imaginait tomber au lieu de dérégler l'économie mondiale, Trump renonce à toute retenue oratoire, plus de surmoi ni de gravité présidentielle, et pardon, désolé pour les mots, mais c'est du Trump dans le texte, ouvrez le putain de Détroit, bande de bâtards cinglés, ou vous allez vivre un enfer, menaçait-il le 5 avril. Ce ne sont pas des propos inventés par de dangereux journalistes, ce sont des propos tenus par M. Trump. Hein. Ouvrez le putain de Détroit, bande de bâtards cinglés, donc les bâtards cinglés, c'est les Iraniens, ou en tout cas les dirigeants iraniens, ou vous allez vivre un enfer. Lundi, dans une conférence de presse à la Maison-Blanche, un journaliste osa poser une question délicate. Donc il y a un gars qui a posé la question à Trump lundi. Quelle est votre réponse aux critiques qui disent que votre santé mentale, que c'est votre santé mentale qui devrait peut-être être examinée avec la guerre continue? Il y a un gars lundi qui a levé le doigt en conférence de presse et qui a dit, Monsieur Trump, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que il faudrait se pencher sur votre santé mentale? C'est intéressant. Trump ne s'est pas démonté. Je n'ai pas entendu ça. Mais si c'est le cas, il va falloir qu'il y ait plus de personnes comme moi parce que notre pays était abusé en matière de commerce, surtout depuis de nombreuses années, jusqu'à ce que j'arrive. Voilà. Le milliardaire faisait mine d'ignorer les interrogations sur son équilibre psychologique. Son ancien allié, Marjorie Taylor Greene, qui a démissionné en janvier de la Chambre des représentants, a résumé ses interrogations de façon brutale sur Internet mardi. Le 25e amendement, pas la moindre bombe n'a été tirée contre l'Amérique. Hein, nous ne pouvons pas tuer une civilisation entière. C'est maléfique et de la folie. Ancienne alliée de Trump. Le président des États-Unis est un fou, abondait Jim McGovern, qui est un élu démocrate du Massachusetts. Le sénateur démocrate Chris Murphy, dès dimanche, utilisait une sémantique semblable. Si j'étais un membre du cabinet Trump, je ne passerais pas qu'à appeler des juristes constitutionnels au sujet du 25e amendement. On va voir dans un instant ce qu'il y a derrière ce 25e amendement, bien sûr. C'est complètement, totalement délirant. Il a déjà tué des milliers de personnes. Il va en tuer des milliers d'autres. Alors, le 25e amendement réapparaît dans la conversation politique des États-Unis alors que les commentateurs s'interrogent sur les limites fixées à l'exécutif. Ajouté à la Constitution en 1967 américaine, il est censé organiser la continuité du pouvoir si le président ou le vice-président se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Donc je crois qu'on n'est pas dans la question de la destitution et de l'impeachment. Je crois que c'est autre chose, si tu ne dis pas de bêtises. Une majorité du cabinet peut invoquer une section de cet amendement pour déclarer le président inapte et confier ses prérogatives au vice-président. Le président peut renverser cette décision, mais le premier vote peut être confirmé par le cabinet lui-même, le cabinet de Trump, par une majorité des deux tiers à la Chambre et au Sénat. Le Congrès peut alors rendre la destitution définitive. Voilà. Alors, est-ce que cet article 25 pourrait être utilisé pour dire « bon, le gars est fou, on l'enlève, on le débranche du pouvoir ?» En raison du profil du cabinet et de la polarisation extrême au Congrès, il est impossible d'envisager une telle entreprise. Les démocrates se focalisent donc plutôt sur l'absence de consultation parlementaire avant de lancer la guerre en Iran. Ayant déjà échoué dans deux procédures de destitution contre Trump, je suis de ceux qui vous expliquent régulièrement qu'il ne faut pas trop rêver avec la procédure de destitution, d'impeachment aux États-Unis. Souvent, on m'interpelle, on dit « Ah, mais quand même, toutes ces dingueries, est-ce que tu ne crois pas qu'il va être destitué, empêché ?» On rappelle que la procédure de destitution, d'impeachment aux États-Unis contre un président, est très lourde, très complexe à mettre en œuvre et qu'à ce jour, elle n'a jamais été appliquée contre aucun président. Le seul qui aurait pu se voir visé par une procédure de destitution, c'était Richard Nixon. Si je ne dis pas de bêtises, Richard, après l'affaire du Watergate, mais il préférait démissionner avant d'être éventuellement destitué. Ça n'est jamais arrivé, sinon. Ayant déjà échoué dans deux procédures de destitution contre Trump, donc il y en a eu. Ils savent que celui-ci s'est toujours nourri Clinton ? Non, jamais. Il n'a pas été destitué. Ils savent que celui-ci s'est toujours nourri de l'idée d'un complot politique visant à l'écarter. Mais avec ses derniers propos fracassants, le président franchit une nouvelle limite. Ancien juriste devenu commentateur dans le New York Times, David French, un bon gars quoi, écrivait mardi qu'il s'agissait d'une rhétorique complètement folle relevant de façon claire du périmètre du 25e amendement, donc le gars est fou quoi, mais les gens sont trop désensibilisés pour le voir. Moi je traduis, on s'est habitué quoi, on s'est habitué à Trump. Le 26 mars, Trump réunissait une nouvelle fois son cabinet devant les caméras. Interrogé sur une éventuelle opération commando pour récupérer le stock d'uranium iranien hautement enrichi, probablement enfoui dans les montagnes d'Ispahan, Trump avait répondu « Je ne peux pas dire ce que nous allons faire, parce que si je le faisais, je ne resterais pas assis très longtemps. Ils feraient probablement, comment ça s'appelle déjà, le 25e amendement. Waouh. Ils appliqueraient le 25e amendement, ce qu'ils n'ont pas fait avec Joe Biden, ce qui est choquant. » Alors, bon, c'est du Trump, pas faire attention. La question de l'équilibre mental de Trump est à la fois légitime et impossible à résoudre sans une évaluation professionnelle indépendante. Si l'affaiblement des capacités cognitives et physiques de son prédécesseur Joe Biden était évident aux yeux de tous, vous vous souvenez, c'était compliqué hein, Biden. Hein. Malgré la bulle que ses conseillers avaient écrit autour de lui, le cas du milliardaire est différent. Depuis son entrée en politique en 2015, il n'a jamais été tenu à des exigences de cohérence. Il n'a jamais brillé par sa capacité à tenir une argumentation. Jamais brillé à construire des phrases sophistiquées et logiques. L'art oratoire de Trump, outre son instinct politique redoutable, a toujours été tissé de provocations, d'anecdotes exagérées, d'esprit d'escalier. Hein ? Le président a lui-même surnommé cet art the weave, le tissage. En continuant à échanger de façon quotidienne avec les journalistes, il montre qu'il est son propre chef totalement autonome. La question c'est si il est fou ou s'il y a un déclin de ses capacités cognitives. Qui va le dire ? Qui va le constater quoi ? Trump a récemment expliqué que la seule légitimité qu'il reconnaissait, c'était la sienne. Et que la seule autorité, selon lui, en mesure de le limiter, c'était sa propre autorité. Un peu ni Dieu ni maître, finalement. C'est un anarchiste. Je vais même plus loin. Trump, c'est un punk à chien. Je vous le dis, moi. Cela renvoie à une autre distinction par rapport à l'ère Biden. Celui-ci était entouré de conseillers civils et militaires de haut rang, d'une expérience incontestable. Dans l'intimité des délibérations à la Maison-Blanche, il pouvait exprimer des avis divergents, comme ce fut le cas au moment du retrait précipité d'Afghanistan. Trump, lui, a fondé son mandat sur l'idée qu'il se suffisait à lui-même. Le seul critère déterminant dans ses recrutements est la loyauté absolue, comme à la défense Pete Hegseth, par exemple, ou Kash Patel, à la tête de la police fédérale, qui lui doivent tout au vu de leurs faibles compétences. L'article tire à balles réelles quand même. Qui donc, dans un appareil d'État défaillant, dépeuplé, est capable de contredire, voire de critiquer, les intuitions de Trump ? Il n'est pas fou cet article ? Il est génial. Je trouve ça fascinant. Sa propre morale, tout à fait, Blist, pas sa propre autorité. Il avait utilisé le mot morale, tu as raison. Je ne me rappelais plus du terme exact, tu as raison. Je vous lis, hein. Je voulais. Est-ce que tu ne penses pas que Trump fait semblant d'être fou pour que ses adversaires craignent qu'il utilise la bombe? C'est une théorie qui a été évoquée régulièrement à propos de Trump, c'est la théorie du fou. Hein. C'est jouer au fou pour que l'adversaire pense que tu es fou et donc prêt à tout, y compris utiliser la bombe. C'est un truc qui a été évoqué avec Trump. À vous de vous faire votre avis. Ah, la régalade qui arrive là. Comment ça, la pub est ciblée pour moi? Besoin de soutien pour développer les initiatives. Ah, c'est pas mal ça. Mais là, tu l'as ça! Quelqu'un vient de dire, Archange, la pub est ciblée pour toi. J'avais pas vu ça. Appel à projet, besoin de soutien pour développer des initiatives d'éducation aux médias. C'est un truc du CNC, ça ou quoi? Fonds pour l'indépendance de la presse. Candidater jusqu'au 30 avril 2026. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a de l'argent public là? Il y a un QR code. Il y a de l'argent public? Hein? Oh, tiens donc. Tiens, on va les voir ensemble. Ici, on essaie de faire des trucs un peu en transparence. Qu'est-ce qu'il dit, Grégory? Alors, je vais vous coller ça. Je vais me coller ça à moi-même. Je suis là. Je colle l'URL. Quel ingénieur, incroyable. Coller, envoyer. Hop. Alors, allons voir. Il y a des sous? Il y a des sous? Il y a de l'argent public? Encore des millions d'euros de rémunération pour Samuel Etienne? Alors. Qu'est-ce? Donc, je vais voir le QR code parce que je suis, comme vous le savez, je suis à l'aise avec la technologie. Fonds pour l'indépendance de la presse. Vous sollicitez un soutien financier pour un projet en matière d'éducation aux médias et ou de sensibilisation à la lutte contre les informations. Mais c'est ce que je fais tous les matins, moi. Attendez, ils vont me donner des sous? Le Fonds pour l'indépendance de la presse lance un appel à projet visant à soutenir financièrement des initiatives de sensibilisation à la lutte contre la désinformation et l'éducation aux médias, notamment auprès des jeunes publics. C'est vous, ça. Au cours de l'année scolaire 2026-2027. Okay. L'enveloppe globale allouée dans le. L'enveloppe globale? Attends, c'est 20 000 euros en tout pour tout le monde? L'enveloppe globale allouée dans le cadre de cet appel à projet est à titre indicatif fixée à 20 000 euros. Attends, c'est 20 000 euros pour tout le monde? L'enveloppe globale. Non mais ils vont me donner 2 euros là. Les projets attendus. Non mais ils ont oublié des zéros, non? Ils ont oublié des zéros, non? Il manque des
Des
millions, hein?
millions,
Des millions.
des millions, vous êtes
Il
charmante.
manque des
Vous
millions.
voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina?
Ouais. Les projets attendus devront permettre de familiariser les jeunes publics aux mécanismes de l'information, les aider à décrypter les mécanismes et les outils de manipulation des informations, notamment dans l'espace numérique, développer leur esprit critique face au contenu informationnel, plus globalement promouvoir le rôle essentiel dans une société démocratique d'une information de référence basée sur les règles déontologiques du journalisme. En vrai, c'est intéressant, quoi. Si vous voulez soumettre votre candidature, merci de prendre connaissance du règlement de l'appel à projet. Lien cliquable. Il y a un lien cliquable. Parce que avant, il y avait des liens. Il y a un petit mème, il y a une petite ref sur Internet qui est très drôle par rapport à ça. Avant, il y avait des liens sur Internet, mais ils n'étaient pas cliquables. C'était juste des liens comme ça. Et là, c'est pas un lien comme avant. Voilà le dernier podcast de France, exactement. Vous avez la ref. Là, c'est un lien cliquable, celui-là. Donc, il y a un lien cliquable. Et il faut y aller vite parce que. Ah, tu peux déjà remplir là? Il y a déjà un formulaire là? Ah, ouais. Ah, ouais. Oh, bah, tu peux soumettre direct et tout. On clique? Qu'est-ce qu'ils disent? Le fonds de l'indépendance de la presse. Ok. Ah, il est long, hein. Faut bosser, hein. Ah ben bah, non. Eh ben bah, non. Ok. C'est intéressant. Merci de m'avoir signalé ce. Ah, mais c'est bien de financer ça. C'est bien. Ça, c'est mon WhatsApp, faites pas attention. Donc, on en est où nous? Ah oui, la régalade, le petit dessert. C'est maintenant. Bon, c'est voilà. Je vous l'ai mis au milieu. Voilà. Voilà. Si vous avez un peu le bec sucré, j'ai mis le dessert au milieu. Voilà. Et ça, on va mettre ça pour les amis de YouTube. Ok, vous êtes prêts? C'est l'histoire de. Les astronautes sont pas dans l'espace. Le main event. Attention. 3, 4. Amis de YouTube, un grand bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch, dans laquelle on se penche sur l'actu tous les jours avec les amis de Twitch. Qui vous disent bonjour dans le chat, n'hésitez pas, amis de YouTube, à dire bonjour à nos amis de Twitch aussi. Et à mettre des pouces, à mettre des trucs, des turbo boosts, je sais pas quoi. On voulait partager avec vous cette actu ce matin qui est incroyable. On vous révèle ce matin que les astronautes de la mission Artemis 2, dont les médias nous parlent à longueur de journée, ils sont pas dans l'espace. Ils sont pas partis vers la Lune. Ils sont pas en train de revenir. Vers la Terre. Ils sont dans un studio télé. Ils sont sur un fond vert. Avec des câbles pour faire croire qu'ils sont en apesanteur. Merci le Parisien. Lisons l'article. Les astronautes d'Artemis sont-ils dans un studio de télévision? Ah non, pardon, je me suis trompé, c'est pas le Parisien qui dit ça. Les réseaux sociaux sont inondés ces derniers jours de thèses conspirationnistes affirmant que la mission de la NASA est fausse. Voilà. Le pot de Nutella en lévitation, tout ça, c'est pas vrai. Donc moi je dis non seulement c'est faux, non seulement les gars sont dans un studio de télé sur fond vert, mais en plus tout ça est financé par le Nutella. Voilà, lisons l'article. Il y a eu les images du décollage, de la fusée en direct, celle depuis la capsule Orion, ou encore les photos du coucher de terre derrière la Lune, photo magnifique, petite planète bleue perdue dans l'immensité noire de l'univers, mais pour eux, rien. Ni fait. Tout est faux et archi faux. Hein? Depuis le lancement d'Artemis 2, de nombreuses thèses conspirationnistes mettent en doute la réalité des faits sur les réseaux, comme c'est le cas depuis plus de 50 ans pour le premier pas sur la Lune, puisque vous savez qu'on n'est jamais allé sur la Lune, le drapeau qui flotte, il ne devrait pas flotter, etc. Pardon. Ainsi, sur un plateau de télévision britannique, dans l'émission de Piers Morgan, un intervenant n'a pas hésité à reprendre ce vieil argument de l'impossibilité de franchir une zone de radiation appelée Van Allen. Van Allen, c'est pas. C'était pas un groupe de rock? Jump? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jump! Tintin, nanana. Je comprends rien. Sous peine de mort. Ouais. Un autre suivi par 593 000 personnes a voulu démontrer la supposée exfiltration des astronautes par un téléphérique. Les astronautes, ils n'ont pas décollé. Alors, il y a Stardust RSpace dans le chat qui, lui, connaît ces sujets, qui dit « Arrête, Samuel, de raconter des conneries. Van Allen, ça n'est pas qu'un groupe de rock, c'est aussi les ceintures de Van Allen découvertes par la NASA et il y a un scientifique qui s'appelle Van Allen. » Ça se trouve, c'était le même. Hein. Ça se trouve, le scientifique, il avait les cheveux longs, un peu bouclés, une guitare, et il a fait des tubes. On ne sait pas. Hein. Et donc, il y a un gars, quand même, été suivi par 593 000 personnes qui a voulu démontrer la supposée exfiltration des astronautes par un téléphérique. C'est-à-dire que les gars sont jamais montés dans la fusée. Jamais. Au dernier moment, ils se sont cachés. Ah, ils se sont cachés. Ils se sont mis comme ça, je vous le fais. tu vois, à un moment là, donc ils ont fait comme ça pour dire au revoir là, et hop, à un moment ils se sont baissés, genre pour faire mine de ramasser un truc, tu vois, comme ça. Et après ils sont partis en douce vers une cabine de téléphérique qui les a exfiltrés. Et ouais. Et donc il y a un gars qui est quand même suivi par 593 000 personnes qui a raconté ça. Donc, démontrer la supposée exfiltration des astronautes par un téléphérique, système d'évacuation d'urgence au moment du décollage de la mission Artemis 2. Les gars sont pas partis. Ils ont bout le téléphérique. Depuis, les astronautes seraient. Parce que c'est pas tout, parce que du coup, après le téléphérique, ils sont allés où? Ben, dans un studio de télé. Depuis, ils seraient abrités dans un studio de télévision au fond vert, où ils sont maintenus par des câbles pour simuler la pesanteur. Vous voyez? Un peu comme ça. Autant d'affirmations. Et le petit pot de Nutella qu'on a vu flotter dans l'espace, il a des câbles aussi. Il a des câbles aussi. Autant d'affirmations qui ont poussé le présentateur télé américain Michael Knowles, lors de son direct au moment du décollage, à aller arracher l'herbe derrière lui pour prouver qu'il était bien là où il prétendait être. Le Moon Hoax ou canular de la Lune est né avec l'apparition de l'ouvrage Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, donc on remonte un petit peu dans l'histoire, de Bill Kaysing en 1974. Le scandale du Watergate, la guerre froide contribue alors à la défiance envers le pouvoir. Voilà. La rumeur reprend de plus belle à la sortie en 2001 d'un documentaire Avons-nous atterri sur la Lune, diffusé par la Fox. À chaque fois, les arguments sont facilement compréhensibles, hein, comme ce drapeau à qui on reproche de flotter sur la Lune alors qu'il n'y a pas d'atmosphère, c'est impossible, en réalité maintenu par un fil de fer. L'adhésion à un complot dépend aussi de son contenu, explique Sylvain Delouvet, qui est psychologue. Qui a coécrit un livre qui s'appelle Le complotiste, cognition, culture, société. Et les théories s'appuient toujours sur un fond de vérité. Plus la théorie va s'appuyer sur un fond de vérité, des éléments, tout n'est pas faux. Hein. Tu vas aller chercher un ou deux trucs qui sont vrais, ça lui donne de la force, bien sûr. Sur le pas de tir, par exemple, il y a vraiment un téléphérique, ouais, hein, qui est destiné à l'évacuation en cas d'urgence. Il existe au téléphérique. Il s'appelle le Slide Wire Emergency Egress System, avec quatre nacelles tractées par des câbles inclinés. Sur les vidéos, on voit les nacelles se déplacer. Pourquoi? Pour les éloigner lors du lancement, éviter qu'elles ne soient endommagées. C'est ce qu'explique Philippe Berthe de l'Agence spatiale européenne. En revanche, si un astronaute devait l'emprunter, la nacelle, là, alors que les moteurs de la fusée sont allumés, il serait gravement blessé, voire tué en une fraction de seconde par l'onde de choc, sans parler des vibrations et des gaz d'échappement. Comme c'est un moteur TDI, mais mal réglé, ça, il y a beaucoup de gaz, quoi. Il y a aussi un certain plaisir à partager un secret. Alors ça, c'est un truc qui est très fort dans les milieux un peu complotistes comme ça. Vous en connaissez peut-être, hein, des gens qui s'informent, on va dire, auprès de sources pas fofolles, petit compte Facebook, là, voilà. Il y a aussi un certain plaisir à partager un secret, à croire qu'on détient la vérité, contrairement à tous les autres, nos contemporains qui sont manipulés. Pointe le philosophe Mathias Girel. Dans un monde extrêmement complexe, trouver finalement des vérités alternatives, il y a un côté rassurant, moi je dirais d'abord. C'est-à-dire que subitement, on vient te dire que des choses très complexes ne le sont pas tant que ça. On n'est pas vraiment parti sur la Lune. Tu vois, la Lune, c'est compliqué, aller dans l'espace et tout. Comment on peut vraiment aller sur la Lune? En plus, la Terre est plate, donc, enfin bref. Alors que si on te dit, bah, les mecs sont dans un studio et sur un fond vert, tu dis, ah ouais. Tu vois, c'est plus simple, là. Tu vois. Donc, il y a le côté un peu rassurant, déjà, de donner une explication simple à un truc compliqué. Et puis, il y a aussi le côté, moi, on m'entourloupe pas, moi. Moi, je ne crois pas n'importe quoi comme ça, moi. Ouais, moi, j'ai un esprit critique. Marrant, c'est l'esprit critique qui se retourne contre l'esprit critique. Donc, il y a un certain plaisir à partager un secret, à croire qu'on détient la vérité contrairement aux autres. Ça s'explique un philosophe qui s'appelle Mathias Girel. Et quand on adhère à une première théorie des complots, eh bien, ça augmente de façon exponentielle les chances de croire à d'autres, puis de finir à basculer dans une façon de voir le monde où tout n'est que complot. Quitte à s'arranger avec la vérité pour qu'elle corrobore ses croyances. Ceci est vrai parce que j'ai envie que ce soit vrai. Les comportements de certains politiques, notamment Donald Trump, décidément il est partout lui, qui brouillent la frontière entre mensonge et réalité, renforcent d'autant plus ces théories, ajoute l'enseignant. D'après un sondage de l'IFOP datant de novembre 2022, Écoutez, les chiffres font un peu peur quand même. Merci Pounia pour le soutien. Merci Drakeos, comment vas-tu? Merci Blondin. Merci Blanquette. D'après un sondage de l'IFOP datant de novembre 2022, 20% des jeunes Français estiment que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. 20% des jeunes Français estiment que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Voilà. Donc c'est pas tonton bourré voilà, qui l'apéro commence à 15h là parce qu'ils s'ennuient un peu. C'est 20% des jeunes. Voilà. Une proportion en hausse de 5 points en 5 ans selon l'Institut et 16%. Voilà, j'arrive pas à y croire ça. Je veux pas y croire. Pense que la Terre est plate, ça j'y crois pas. Ça me paraît trop, mais bon. Bon, enfin, il y en a quoi. Donc voilà pour ce petit article. Waouh, Sugar qui balance. En vrai, quand tu fais ta journée d'appel, tu comprends les 20%. Oh. Je vous lis et on enchaîne. C'est une ah, bonne question de Edge. Est-ce que c'est une affirmation, les gens, les 20 et les 16%, ou c'est un doute? Voilà. Moi, je voudrais voir comment cette enquête est menée, parce que moi aussi, je doute, moi aussi, j'ai un esprit critique quand même. Je trouve que ces chiffres sont quand même très élevés. Bon, j'aimerais bien voir comment c'est fait ce truc. Ouais, voilà, c'est ce que dit l'extratovic. Attention à l'interprétation de ces sondages dont la méthodologie n'est pas forcément très rigoureuse. Pour eux, dire que c'est peut-être possible que quelque chose soit faux considère à dire qu'on pense que c'est faux, ce qui est excessif comme interprétation. Ouais, ça me paraît un petit peu gros cette histoire. Après, Stardust Aerospace, qui a une chaîne Twitch, donc un créateur de contenu et qui est un passionné de ces questions, nous dit ils sont nombreux vraiment d'expériences, j'en vois tout le temps des gens qui pensent ça. Waouh! Oh la vache, il y a... Alors pardon, moi je suis de nature optimiste, mais je vois des messages dans le chat qui le sont moins. Alien 26, Samuel, je suis prof en lycée, je comprends les 20%, je suis prof de bio en terminale et j'ai des antivax. Incroyable. C'est fou. Mais d'ailleurs, on pourrait se faire plaisir. Parce qu'on dit toujours les mêmes trucs. Vous savez, les théories du complot sur Internet, on dit toujours. Bon, il y a la Lune, on n'est jamais sur la Lune. Vous pouvez même pas m'en lister d'autres. Il y a la Terre est plate. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme grosse théorie du complot aussi? Parce que moi, en vrai, je suis pas très au courant de ça. Ah oui, le 11 septembre, oui. Oui, le 11 septembre. Ouais. Les vaccins, ok. Ok. Les reptiliens. Non, mais il y a vraiment des gens, les reptiliens. Les Illuminati. Samuel Etienne a volé des millions. Non, ça, c'est vrai, ça. Moi, je l'ai entendu sur une chaîne d'infos très rigoureuse.
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Non, ça, c'est une info, ça. Les chemtrails. La zone 51. Les pyramides construites par les aliens. Ah ouais, c'est vrai. Michael Jackson est vivant? Non, mais ça, c'est pas ça. Par contre, c'est vrai, ça. Moi, j'ai vu une photo sur Internet. Il était en vacances avec Elvis. Ça, je ne supporterais pas quelqu'un le remettre en cause, ça. La Terre est creuse et il y a la cité Agartha à l'intérieur. Alors, Matt, j'ai pas la ref là, mais bon. J'achète. Les chocolats préparés par les marmottes. Non, ça c'est vrai aussi. J'ai vu un reportage là-dessus. Non, ça c'est vrai. J'ai vu un. Ça fait longtemps que je l'ai. À une époque, ils le diffusaient souvent. Il y avait un documentaire où on voyait des marmottes. Et en fait, elles mettaient du chocolat comme ça, dans de l'alu, avec leurs petites pattes comme ça. Ça, moi, j'ai vu des images. Une fois. Vous l'avez vu, ce reportage? Vous aussi? Et, ouais, comme ça. Hop. Vous aussi, ouais. Bon, voilà pour cet article. Voilà. Assez amusant. Voilà. Ils sont forts quand même, les Ricains. Quand tu penses que les gars sont dans un studio, là, hein, tranquillos, et qu'ils vont se les ra et quand ils vont revenir sur Terre, mon œil, quand ils vont sortir du studio, je sais pas comment ils vont les remettre dans la fusée, mais ils vont se débrouiller. Ils vont se la raconter, ils vont se la péter pendant des mois, des années. Je suis allé dans l'espace et tout. Ah, ça me débecte, moi. Ça me débecte. Regarde ça, les tricheurs, là. C'est fou, ça. Quelle régalade, en vrai. Allez, on passe à quelque chose de plus sérieux, et ô combien plus sérieux. C'est ce débat sur la loi Yadan et cette pétition qui vient de dépasser les 500 000 signatures. On y va. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un sujet complexe. J'ai attendu un peu pour trouver un article le plus clair possible sur le sujet. Je pense que je l'ai trouvé. Le voici, c'est dans Libé. On me dit dans le chat qu'on est même à 600 000 maintenant. De quoi s'agit-il? On va prendre le temps sur cette histoire. Antisémitisme, la loi Yadan au centre de la tension. Une pétition citoyenne appelant les parlementaires à s'opposer au texte porté par une députée Ensemble, qui s'appelle Ensemble pour la République, pardon, qui s'appelle Caroline Yadan, a dépassé les 500 000 signatures mardi. Donc on serait à 600 000 aujourd'hui. Une pétition qui fragilise un peu plus une proposition de loi controversée. On rappelle proposition, c'est quand ça vient du Parlement, projet de loi quand ça vient du gouvernement. Visant à sanctionner les formes renouvelées de l'antisémitisme, hein, au cœur de débats virulents. Lisons l'article de Robin D'Angelo qui a l'air assez clair. Pour un texte ayant vocation à faire l'unanimité contre les extrêmes, selon la rédactrice, la députée, Madame Caroline Yadan, l'affaire vire à la discorde. Le 16 avril, dans l'hémicycle de l'Assemblée, les députés devront se prononcer, donc c'est dans toute semaine. Sur sa proposition de loi qui vise à quoi? À sanctionner les formes nouvelles, renouvelées de l'antisémitisme. Mais, c'était sans compter l'éruption d'une pétition citoyenne appelant les parlementaires à s'y opposer, déposée sur le site de l'Assemblée. Elle a dépassé mardi les 500 000 signatures, bien aidée par la mobilisation de LFI, la France Insoumise. Ce seuil, donc ça c'est la règle, hein, depuis quelques années, ce seuil des 500 000 signatures dépassées. Ouvre la voie à un débat sans vote au Palais Bourbon, donc à l'Assemblée, sur le contenu de cette initiative qui dénonce, je cite, une loi qui fait un amalgame entre antisémitisme et antisionisme afin de faire taire toute critique contre Israël. Voilà. Ce que dit la loi, c'est que si une pétition déposée sur le site de l'Assemblée dépasse les 500 000 signatures, eh bien, on doit faire un débat à l'Assemblée sur le sujet. Sans vote, mais un débat, ce qui est déjà ça. La prochaine conférence des présidents, qui se tiendra mardi prochain, devra déterminer des suites justement à donner à cette pétition. À l'inverse, oui, c'est ça. Sinon, le risque, c'était que critiquer le sionisme allait peut-être pouvoir devenir illégal. C'est ça, c'était l'inquiétude. Donc, réunion de la conférence des présidents, qui devra déterminer des suites à donner à cette pétition. À l'inverse de celle contre la loi Duplomb, qui demandait le retrait de cette dernière après son adoption, le plaidoyer intervient avant même l'examen du texte en séance, ce qui vide en partie la démarche de son sens. Mais son succès populaire fragilise encore un peu plus une proposition de loi controversée sur laquelle s'affrontent violemment chercheurs, politiques et militants antiracistes. Ses promoteurs entendent renforcer l'arsenal juridique. Alors, que veut cette loi? Toujours essayer de comprendre la logique derrière, toujours se mettre à la place des gens, même qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est important de faire cet effort, toujours, toujours. Ces promoteurs entendent renforcer un arsenal juridique dans un contexte de flambée des actes antisémites en France, hein, qui sont documentés, depuis les attentats commis par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui ont coûté la vie à 1 200 personnes, dont une majorité de civils. Si l'adversaire dénonce, eux, un texte, hein, qui, en fait, prévoit, entre autres, de sanctionner des propos qui feraient l'apologie du terrorisme, directement, même implicitement. Non, 1200 personnes, la vache, me dit In South Good. Non, 1200 personnes, c'est pas le nombre de victimes en France de l'antisémitisme hein, depuis 2023. Non, c'est le nombre de victimes des attentats du Hamas. J'ai peur que In South Good soit parti sur une autre voie, là. Donc, sanctionner des propos qui feraient l'apologie du terrorisme directement, même implicitement, la banalisation outrancière, la minoration de crimes contre l'humanité serait également sanctionnable. Une sanction serait aussi infligée aux individus ayant appelé publiquement à la destruction d'un État reconnu par la République française. Des termes trop flous, selon ces détracteurs, qui assimileraient l'antisionisme, alors la petite parenthèse, Donovan, merci, Vérener, merci, Pugna, merci, qu'est-ce que l'antisionisme ? Je suis obligé de rappeler ce que je dis souvent sur le sujet, il y a deux définitions aujourd'hui qui coexistent, cohabitent et qui renvoient à deux moments historiques différents. Et le problème, c'est que quand on utilise ce mot aujourd'hui d'antisionisme, il est compliqué de savoir quelle est la définition retenue par le locuteur. Voilà. L'antisionisme, historiquement, c'est le courant de pensée qui s'oppose au sionisme. Et le sionisme, c'est la création d'un État, l'État d'Israël, hein, un État hébreu, pour accueillir la communauté, la diaspora juive dispersée à travers le monde, qui n'a jamais eu un État, un pays, dans lequel cette communauté pourrait se protéger des violences qu'elle a subies tout au long de l'histoire, les pogroms et évidemment la solution finale nazie. Voilà. Le sionisme, c'est ça. C'est le souhait qu'il y ait un État pour accueillir les Juifs du monde entier qui le souhaitent. Qui le souhaitent. Il y a aussi des Juifs qui sont antisionistes. Historiquement, il y a aussi des Juifs qui ont dit non, moi, je veux pas qu'il y ait un État juif. Voilà. C'est ça le sionisme historiquement. Mais dans une définition plus moderne, plus récente, l'antisionisme, c'est l'opposition à la politique de l'État Israël. Sa politique globale contre les Palestiniens, hein, contre les États arabes de la région aussi. Hein. Donc c'est une définition plus moderne qui est notamment beaucoup utilisée par les militants pro-palestiniens et toutes les personnes qui se soucient du sort du peuple palestinien. Hein. Je ne juge pas ces définitions, c'est deux bonnes définitions. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien, quand quelqu'un dit qu'il est antisioniste, si il s'en réfère à cette définition moderne, hein, ou à cette définition historique. Et ça n'est pas la même chose. Je m'explique, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, hein, je vous en dis juste que moi j'en comprends en tant que modeste journaliste généraliste. Quoi. L'accusation de certains, c'est que derrière l'antisionisme opposé à la politique de l'État d'Israël, hein, se cache un antisionisme qui serait une forme d'antisémitisme. Voilà. C'est ça qui fausse tout le débat. D'où les accusations régulières contre LFI, par certains, d'antisionisme, d'antisémitisme. LFI répondant, vous n'avez rien compris, c'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme. Et l'un des soucis, c'est justement ce flou autour de la définition du sionisme, de l'antisionisme, et du sionisme du coup. Donc je poursuis l'article maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse. Donc des termes flous, selon ces traducteurs, qui assimileraient l'antisionisme à un délit, c'est confus quand même, pas tellement en fait, c'est pas si confus que ça. Qui assimilerait l'antisionisme à un délit et empêcherait de critiquer la politique du gouvernement israélien, par exemple en parlant d'un génocide à Gaza. Jean-Luc Mélenchon a notamment posté sur X le mercredi « La volonté d'Netanyahou de continuer le massacre et la destruction au Liban ne peut pas être acceptée. Fauteur de crimes de guerre permanents, Netanyahou doit être stoppé, remis à la justice internationale. Il faut l'exiger avant que la loi Yadan interdise toute critique de ces crimes. » La crainte des gens qui ont signé la pétition, et la crainte de la personne, c'est un jeune homme, je crois, qui a lancé cette pétition, c'est que cette loi interdise non pas les propos antisémites, mais aussi tout propos critique contre l'État d'Israël, l'État hébreu, et son gouvernement actuel, qui est un gouvernement d'extrême droite. Voilà. Caroline Yadan, donc la députée, ne cache pas avoir aussi dans son viseur le slogan « From the river to the sea », un appel qui permet de légitimer l'agression des Juifs, dit-elle. La formule peut pourtant être interprétée, selon des militants qui l'emploient, comme un soutien à un État binational israélo-palestinien. L'assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme, je vous en parlais, est un serpent de mer en Macronie, hein, puisque la députée est macroniste. Dès 2019, un autre député, Sylvain Maillard, l'avait mis à l'agenda parlementaire avec une résolution sur le sujet qui avait déjà suscité une levée de bouclier, tandis que l'ancienne majorité se montrait peu partante pour soutenir ce texte finalement adopté de justesse. Le sujet revient par la grande porte en 2024 avec cette proposition de loi de Caroline Yadan en novembre, qui reprend l'esprit du texte de son prédécesseur dans un contexte encore plus inflammable depuis la multiplication des accusations d'antisémitisme contre LFI et Mélenchon. La députée de la 8e circonscription des Français à l'étranger, Madame Yadan dont on parle, qui englobe Israël, peut bénéficier du soutien sans faille du gouvernement, notamment de la ministre déléguée Aurore Berger, chargée de la lutte contre les discriminations, qui a inscrit le texte de loi sur son temps parlementaire, et même du chef de l'État. Donc le président Macron soutiendrait ce texte, si je comprends bien. Le président a toujours été clair sur le sujet. Il a été le premier à parler d'antisionisme comme une nouvelle forme d'antisémitisme, insiste un conseiller d'Emmanuel Macron. Je vais vous lire, hein, je vous ignore pas. Hein. Je voulais juste lire l'article avant qu'on en débatte un petit peu ensemble. Mais Caroline Yadan doit encore patienter un an après que le Conseil d'État à qui elle l'avait soumise à l'époque avait sévèrement jugé cette première mouture du texte, estimant qu'il existait un risque de censure tant sur le plan constitutionnel que conventionnel. La députée voit progressivement au fil du temps ses soutiens s'amenuiser. Après s'être abstenu en commission, le Parti Socialiste a finalement annoncé qu'il voterait contre en séance. 9 députés socialistes étaient signataires de la première version du texte. Ils ne sont plus que 2, François Hollande et Jérôme Guedj. Voilà. Il y en a qui manquent de courage, très clairement, commente Madame Yadan. Mardi, lors d'un point presse, la porte-parole du Modem a même appelé à ce que le texte soit temporairement retiré afin d'apaiser les choses. Je vous lis la fin de l'article. Plusieurs élus du parti présidentiel ont confirmé à Libération leur intention de ne pas voter cette loi. Il y a aussi une instrumentalisation de notre camp. On donne à LFI une dimension plus antisémite qu'ils n'ont. Et je trouve ça indécent, insiste une députée Renaissance. Caroline Yadan, elle, n'est pas de cet avis. Elle assume que sa proposition de loi vise à cornériser encore un peu plus les insoumis. Partie ouvertement antisémite, dit-elle, malgré le fait, rappelle Libération, qu'aucune plainte et qu'aucun procès en la matière n'ait été déposé. A l'inverse, l'ancienne électrice socialiste qui a milité au sein de SOS Racisme et de l'Union des étudiants juifs de France dans les années 90, donc Madame Yadan, se dit bien incapable de citer un député RN qui soit antisémite. Madame Yadan, elle dit, il n'y a pas de député RN antisémite. Elle dit, Madame Yadan, elle dit, LFI est ouvertement antisémite et je ne suis pas capable de citer un député RN antisémite. Mais je passe mon temps à essayer de convaincre les gens de la communauté juive de ne pas voter pour Marine Le Pen ou Bardella, ajoute-t-elle. Voilà. Donc ça c'est le débat politique autour de ce texte. Maintenant, je vais vous lire. Allez. Isaac Sior, cette crainte est légitime. Cela fait un moment déjà que la Macronie et la droite profitent de l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme pour diaboliser la gauche opposée à la politique d'Israël. Docteur Ictus, je trouve cette loi liberticide. Sur quelle base on ferait taire les critiques à propos d'un seul pays? Cela semble délirant et anticonstitutionnel, quel que soit le pays. Alors, c'est pas l'objectif officiel de cette loi, tu l'as compris. Mais les gens opposés à cette loi estiment que le texte est trop flou pour ne pas être utilisé par certains pour éventuellement effectivement, corseter, empêcher la liberté d'expression sur, par exemple, l'État d'Israël et son gouvernement aujourd'hui, Netanyahou. Merci Spinox, merci Donovan. C'est même pas un problème de définition. Être contre l'existence d'Israël n'est pas forcément antisémite, on est d'accord, Humeur. Les antisémites sont antisionistes, l'opposé n'est pas forcément vrai, on est d'accord. Et même j'ai raison, je vois beaucoup de soutien au gouvernement israélien faire cette similitude, hein, antisémitisme, antisionisme. Le discours du gouvernement Netanyahou, notamment le discours des ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou, c'est si vous critiquez aujourd'hui ce que fait l'État d'Israël, si vous critiquez l'action de notre gouvernement, c'est que vous êtes antisémite. Voilà, ça, ce sont des propos que vous pouvez entendre en Israël. C'est factuel. Après, certains dans le chat rappellent aussi que sous couvert d'antisionisme, il peut y avoir aussi, à la marge parfois, de l'antisémitisme. Hein, pour avancer masqué. Rania Rock, dans le chat, écrit: Dieudonné est un exemple de comment on peut utiliser l'antisionisme comme paravent de l'antisémitisme. C'est les accusations qui sont portées contre Dieudonné. Je vous lis. Archange écrit, comme le dit l'article, le Conseil constitutionnel ne validera sans doute pas ce type de texte. D'abord, est-ce qu'il va être soumis au vote? Car trop facilement contestable juridiquement, mais au moins ça a le mérite de faire réfléchir les gens sur le sens des mots et au final différencier les positions antisémites, antisionistes, historiques et juste anti-Netanyahou. On peut être anti-Netanyahou, opposé à ce gouvernement, sans être antisioniste, et encore moins antisémite. Comme ça, vous avez les clés de. Je pense qu'en lisant cet article de Libé, ça nous donne les clés un petit peu de compréhension de ce débat sur la proposition de loi Yadan. On aura l'occasion d'y revenir si jamais ce texte est effectivement discuté à l'Assemblée, voire voté. Ça me semble pas en prendre le chemin, mais si c'était le cas, et de son éventuelle censure ou pas par le Conseil constitutionnel. Ok? Allez, on enchaîne avec l'emploi des jeunes. Alors, il se trouve que il y a 2 ans, j'ai lancé sur ma chaîne Twitch une émission qui parle de ça, enfin d'emploi en général, pas que pour les jeunes d'ailleurs, qui s'appelle MVP, ma vie pro, et qui 2 fois par mois explore le monde du travail, les voies professionnelles pour que chacun trouve sa voie. On est jeune, on s'interroge sur son avenir, sa formation. Le secteur dans lequel on voudrait travailler. On travaille déjà, c'est pour ça que ça ne parle pas qu'aux jeunes, MVP, et on s'interroge aussi sur le sens de son boulot. On n'est peut-être pas forcément très épanoui. Et on se dit, est-ce que je ne serais pas mieux ailleurs, dans une autre entreprise, dans un autre secteur, dans un autre métier? Et il y a un dossier de Libé sur l'emploi des jeunes, voilà, qui nous parle d'ailleurs un petit peu du festival MVP qui arrive samedi. Donc ça permet de me faire ma propre pub. Non, mais c'est intéressant. En mode d'emploi, alors que le taux de chômage des 15-24 ans en France est nettement supérieur à celui de l'ensemble de la population active, des experts pointent l'importance de l'accompagnement et éclairent les nouvelles méthodes qui sortent du cadre classique du recrutement, lisons ce papier de Delphine Bernard-Bruls dans Libération. Trouver un premier emploi, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, est une étape difficile pour de nombreux jeunes, mais pour ceux qui cumulent peu de diplômes, de réseaux ou d'expérience, l'accès au marché du travail relève souvent du parcours d'obstacles. En France, malgré une amélioration du niveau de formation globale, des inégalités d'insertion restent nombreuses. Selon les données de l'INSEE, le taux de chômage des 15-24 ans est nettement supérieur à celui de l'ensemble de la population active. Au dernier trimestre 2025, 21,5% des actifs de cette tranche d'âge étaient à la recherche d'un poste, contre 7,9% de la population active globale. Le diplôme demeure l'un des facteurs les plus déterminants. Et effectivement, 85% des diplômés du supérieur travaillent, contre 33% des jeunes qui n'ont pas le bac. Il y a un discours qu'on entend beaucoup qui est que le diplôme ne protège plus du chômage. Alors, le diplôme protège peut-être moins du chômage qu'il n'a protégé, avec de plus en plus de diplômés par rapport à des périodes historiquement anciennes où le nombre de diplômés dans une population donnée, dans un pays comme la France, était beaucoup plus faible. Le diplôme protège peut-être beaucoup moins du chômage qu'il ne protège, mais comparativement aujourd'hui encore à ceux qui n'ont pas de diplôme, il protège encore énormément, d'où ces chiffres. Je les recite, 85% des diplômés du supérieur travaillent contre 33% des jeunes qui n'ont pas le bac. Explique Hélène Noblecourt de France Travail. Pour elle, ces difficultés ne relèvent pas uniquement de la conjoncture économique. Le chômage de cette classe d'âge est vraiment structurel. En effet, déjà en 1997, année noire, l'inactivité des moins de 30 ans avait dépassé 25%. Ce que confirme un professeur d'économie, Pierre Cahuc, les caractéristiques du système éducatif et les offres de formation ne favorisent pas l'insertion des jeunes. Donc on a, au-delà du diplôme pas diplôme, un problème structurel. Dans l'enseignement professionnel, notamment, il pointe un manque d'investissement, une adaptation parfois lente aux réalités économiques. Au-delà de la formation, donc des problèmes de formation, de nombreux obstacles pèsent sur l'insertion professionnelle. Ces freins vont de la mobilité au logement, hein, à la précarité de manière plus générale, car pour beaucoup, la transition vers l'âge d'adulte s'accompagne, au-delà de la recherche d'emploi, de difficultés matérielles, passer le permis de conduire, hein, quitter le domicile familial, trouver un logement. Lorsqu'on est issu d'une famille précaire, on en subit les conséquences sur tous ces points et ça va réduire le champ des possibles pour les premières candidatures, quand l'origine sociale va impacter à plein de niveaux. Les études suivies, l'accompagnement pour la recherche de l'emploi, le fait de pouvoir être en mobilité ou pas, de pouvoir quitter le domicile familial, mais dans ce cas-là de devoir se loger, peut-être même d'acheter une voiture, etc. Les freins peuvent aussi être, au-delà de ces freins sociaux, psychologiques ou culturels, comme l'explique Samir Gerza, qui est directeur d'une mission quartier prioritaire de la ville à France Travail, et qui dit qu'il y a beaucoup de personnes, notamment dans les quartiers populaires, qui, parce qu'ils sont nés à tel endroit, estiment que tel ou tel métier n'est pas fait pour eux. Alors c'est intéressant ce que dit Kitasugi. Parmi mes 5 amis ingénieurs, 3 travaillent, 1 est vendeur chez Decathlon, donc le diplôme ne protège pas d'un emploi à la hauteur de son diplôme. Voilà. Et les 2 demandeurs d'emploi sont à plus 1 an et demi de recherche. Ok. Ah, 3 travaillent, dont 1 chez Decathlon et 2 chômeurs. Ok, je viens de comprendre, pardon. Voilà. Alors ce qu'on a vu dans MVP récemment, c'est que on s'est penché sur quelques études dans la matière qui font le constat que le diplôme protège toujours du chômage moins, mais moins qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que le niveau global de diplôme de la population augmente et que les débouchés concrets dans les entreprises ne correspondent pas toujours au niveau de formation atteint. Hein, alors qu'on on a dit à ces jeunes, le discours classique des familles, fais des études, c'est ce qui te protégera du chômage. Et on arrive sur le marché du travail en concurrence avec une classe d'âge massivement diplômée, en tout cas beaucoup plus diplômée que les classes d'âge précédentes, avec des schémas anciens où le diplôme garantissait l'emploi, quoi, carrément, quasiment. Et en fait, la donne a changé, quoi. Notamment parce que, globalement, le niveau de diplôme a augmenté et que et que les entreprises n'ont pas forcément les emplois à proposer en lien avec ces compétences. Il y a des études là-dessus. Donc, il y a aussi ceux, comme dit le monsieur là, qui, parce qu'ils sont issus de quartiers populaires, nés à tel ou tel endroit, vont estimer que tel ou tel métier n'est pas fait pour eux. Donc là, ce sont des freins que les gens se mettent parfois eux-mêmes. À ceci s'ajoute une méconnaissance du monde du travail ou des métiers existants. Là, on a un problème d'orientation, de conseil. C'était déjà le cas à mon époque. Je pense que ça n'a pas tant changé que ça. Le manque de confiance en soi, l'autocensure, accumulée aux difficultés scolaires, joue donc un rôle important. Même constat concernant une autre population particulièrement touchée par le chômage, les jeunes en situation de handicap. J'aime bien cet article parce que je le trouve, comment dire, il essaie il n'y a pas de focus, il essaie de s'intéresser à tous les cas de figure. À l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, la directrice générale déplore le manque d'informations. J'ai rarement vu des employeurs malveillants, mais j'en ai surtout vu des démunis sur la question du handicap. Alors que 80% des handicaps sont invisibles, beaucoup de recruteurs associent encore le handicap au fauteuil roulant ou à la canne blanche. Les experts soulignent également que le fonctionnement même du marché du travail peut freiner l'accès à l'emploi. Il est très segmenté avec d'un côté des métiers très stables pour les diplômés et de l'autre des postes très instables pour ceux qui sont sans diplôme. Non seulement ne pas avoir de diplôme freine pour l'accès au marché du travail, c'est une statistique, hein, c'est une constante, mais en plus cela expose à des métiers beaucoup plus précaires. Alors, c'est un peu une porte ouverte qu'on enfonce, mais il faut le rappeler. Parce que parallèlement, vous avez aussi ce discours qu'on entend parfois en mode ah, mais les diplômes, ça sert plus à rien. Alors oui et non, quoi. Le vrai défi, c'est de créer une passerelle, pointe Samir Gerza. Il faut coûte que coûte créer la rencontre entre ces deux mondes, les publics qui cherchent à s'insérer et les entreprises qui veulent recruter. Donc c'est là où il y a quelques petits motifs d'espoir, parce que ce constat que nous faisons, d'autres l'ont fait, et essayent d'imaginer des choses pour que, bah, ces jeunes, et notamment ces jeunes non diplômés, puissent accéder au marché de l'emploi. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour tenter de faciliter cette insertion. Le contrat d'engagement jeune, le CEJ, qui propose un accompagnement renforcé pour les postulants éloignés de l'emploi. Le conseiller France Travail va devenir une sorte de coach de vie, explique le directeur général de France Travail, Thibaut Guilly. L'accompagnement se veut intensif avec 15 heures d'activité par semaine qui vont de la création de CV au repérage d'entreprise ou encore de visite de forum. Moi, je ne connais pas ce dispositif. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui pourraient me parler du CEJ, le contrat d'engagement jeune. Sur le papier, ça a l'air super, mais est-ce que c'est aussi super que ça? Si quelqu'un connaît ce dispositif, ça m'intéresse. Lorsqu'un candidat manque de formation et de compétences pour un poste précis, d'autres dispositifs peuvent être utilisés. Quand un jeune est motivé, qu'un travail l'intéresse, mais qu'il lui manque un certain nombre de savoir-faire, décrit le monsieur de France Travail, Thibaut Guilly, là, à propos des stages de préparation opérationnelle à l'emploi, on va rajouter quelques dizaines d'heures de formation, d'expérience professionnelle pour transformer un candidat motivé en un candidat opérationnel. Un accompagnement qui dépasse souvent la seule question du travail. On travaille main dans la main avec des acteurs de proximité du logement, la garde d'enfants, la santé, de la mobilité, afin d'accompagner de façon globale et de ne pas se contenter de les renvoyer d'un guichet à l'autre. Alors, j'ai des commentaires sur le CEJ. Merci, parce qu'il y a les infos et il y a le vécu aussi. Alors, c'est parti. Gentil communiste, joli pseudo. Le CEJ est vraiment pas mal, mais ça dépend du conseiller en face. Ma conjointe se l'est fait refuser sans raison. Alors que j'ai vécu et me suis formé pendant un an et demi face au dispositif, grâce au dispositif. Ça, c'est intéressant. Il y a 25 ans, j'ai déjà fait ça, me dit Gérard. Pas sûr que ça existait il y a 25 ans, ça, c'est, t'es sûr? Les formateurs connaissaient rien à mon domaine. Nisli, j'ai fait le CEJ. Selon la personne que tu as conseillé, en conseiller ou en conseillère, ça peut être tout ou rien. Bon, bah, c'est exactement ce que disait notre ami gentil communiste. Donc ça dépend du conseiller, quoi. Ok. Intéressant. Oui, j'ai participé à cet accompagnement, le CEJ, lors d'un premier entretien avec France Travail. Je leur ai donné mon niveau de diplôme, bac plus 5. Leur réponse a été: ah oui, quand même, ça va être particulier avec un tel niveau de diplôme. Tentez votre chance sur d'autres plateformes comme LinkedIn, Welcome to the Jungle, etc. « Sur le papier, c'est super. En réalité, me dit Vest 16, il s'agit d'un accompagnement régulier où il faut davantage justifier de ses candidatures. Une fois les 6 mois passés, on a un nouveau affaire à un nouveau conseiller. On doit répéter notre parcours, recommencer de zéro. Je vous lis, hein. Je trouve ça très intéressant. Le COJ, personnellement, me dit Nickeman 2, m'a permis d'avoir du parrainage. Sans ça, j'aurais jamais eu de premier contact et les 15 heures n'ont jamais été obstacle pour mon côté. Ok, intéressant. Merci, profane. Ok. Ok, je continue. Certaines initiatives cherchent également à sortir du cadre classique du recrutement. Le sport peut ainsi servir de levier pour recréer du lien social et valoriser autrement les compétences. Les clubs sportifs engagés, c'est une des briques du programme sport de France Travail, explique Arnaud Gandet, qui est le coordinateur national du secteur, avec des initiatives sportives qui prennent plusieurs formes, comme les matchs des métiers. Ça, j'avais entendu parler de ça. On met des responsables d'entreprise et des demandeurs d'emploi ensemble sur le terrain, voilà, mais on ne dit pas qui est qui. Et puis il y a des liens qui se créent, des discussions et il se passe des choses intéressantes. Où candidats et recruteurs se rencontrent autour d'une activité en physique. Mais l'initiative la plus emblématique reste le dispositif Stade vers l'emploi. Comment ça, tu fumes le recruteur dans un combat de boxe? Excellent. Stade vers l'emploi, les deux publics font du sport ensemble sans savoir qui est qui. Voilà, non, pardon, j'ai confondu, c'est ça. C'est stade vers l'emploi. C'est pas mal, hein. L'objectif est de recruter autrement, recruter sans CV. Une pratique qui semble convaincre les entreprises. On a fait 580 stades vers l'emploi en 2025. Le taux de satisfaction d'entreprise est de 93%, souligne le coordinateur national. Alors, c'est plutôt intéressant. Je vous lis. Hein. J'ai fait un stade pour l'emploi, une journée de recrutement sous le thème de rugby avec des ateliers, me dit Force Rose. C'était bien ou pas? C'était bien ou pas? Alors maintenant, il faut faire du sport pour trouver du boulot, ils ne savent plus quoi inventer. Bah, Glaze, moi je préfère des initiatives comme ça. Face à une situation bloquée, des initiatives comme ça, pour tenter des choses plutôt que rien faire, quoi. Merci Alexandra pour ton message. Alexandra, qui est en situation de handicap, qui est une habituée de la chaîne, que je salue. Alexandra est en situation de handicap et elle nous parle de sa recherche d'emploi et de cadres qui ne sont pas adaptés, quoi. Notamment, par exemple, pour les fauteuils. Abido Sama me dit, c'est vraiment une communauté de goth. Hein. J'ai travaillé sur ce dispositif en cours et le dispositif CEJJR. J'ai travaillé sur l'évaluation du dispositif, notamment les effets sur le retour à l'emploi qui sont nuancés, notamment parce qu'il est difficile pour les services des missions locales d'atteindre cette population de jeunes en difficulté avec un dispositif basé sur le volontariat. C'est hyper intéressant. Donc, il y a un problème notamment de communication autour de ce dispositif. J'ai honte, hein. Mais moi, j'ai l'impression que je le découvre alors que j'en ai peut-être déjà entendu parler. Quelqu'un m'a même dit dans le chat tout à l'heure que j'avais déjà reçu un invité sur le sujet. Bon, ma mémoire me fait défaut, mais j'ai pas bien imprimé, quoi. Alors Force Rose nous parle de sa journée stade là. C'était sympa, j'avais un peu l'impression d'être en EPS au lycée. J'adore. Lisons. Certains acteurs cherchent, eux, à agir en amont. Attention, séquence melon, séquence boulard. Certains acteurs cherchent, eux, à agir en amont en améliorant l'accès à l'information sur les métiers et les parcours possibles. C'est le cas de Samuel Etienne. Mais c'est pas possible. Le mec lit un article qui parle de lui. Déjà, qui passe son temps à regarder des auditions à l'Assemblée nationale, sur sa gueule. Donc, voilà, ça parle de moi, tant mieux. Certains acteurs cherchent, eux, à agir en amont en améliorant l'accès à l'information sur les métiers et les parcours possibles. C'est le cas de Samuel Etienne, journaliste qui officie sur la plateforme Twitch, ça c'est vous, et qui réalise des sujets destinés aux jeunes. des formats. Sur les questions de formation, d'orientation, il n'y avait pas beaucoup de choses à disposition, notamment au niveau médiatique. Ça, c'était mon constat, mon sentiment, qui est à l'origine de cette émission MVP. Sur Twitch, il propose depuis 2 saisons l'émission Ma Vie Pro, programme mensuel, bimensuel. Bimensuel. Et interactif, où chroniqueurs et invités racontent une diversité de parcours, de métiers, de conseils pour donner à réfléchir aux orientations et aux potentielles reconversions. C'est exactement ce qu'on fait dans cette émission. Le streamer présent durant le festival Ma Vie Pro, point d'exclamation, festival dans le chat, c'est samedi, c'est à Paris, proposera des rencontres avec des employeurs, de la découverte de métiers, du job dating, c'est vrai. L'idée est qu'on repart du festival avec une idée concrète d'orientation, de formation, un entretien d'embauche, voire un job. Oui, mesdames et messieurs. C'est beau ou c'est pas beau? D'autres, bon, voilà pour la séquence promo, merci Libération, vous êtes super cool. D'autres pays ont adopté des approches différentes. Au Japon, par exemple, le service public de l'emploi intervient directement dans les lycées professionnels. Il y a des conseillers dans les établissements qui suivent les élèves qui souhaitent arrêter l'école après leur examen et leur proposent des stages. C'est bien ça. Et ont une connaissance très fine du marché du travail et des souhaits d'orientation des jeunes. C'est pas mal ça. Et en Allemagne, c'est 50% d'une classe d'âge qui est orientée dès ses 10-11 ans vers des écoles à vocation professionnelle en apprentissage contre 20% en France, avec une orientation plus tardive. Conséquence des taux d'insertion plus stables et la preuve que l'investissement dans l'accompagnement des jeunes peut produire des effets durables sur l'emploi. Alors, ça peut être critiqué, ça aussi, hein. Donc en fait, en Allemagne, on peut orienter très très tôt vers des écoles à vocation professionnelle. Certains vont dire c'est formidable, hein. On sort du système scolaire généraliste classique. Des jeunes qui peuvent tout à fait s'épanouir dans un métier manuel, par exemple. Mais là, on parle d'enfants dès 10-11 ans. Alors, bah, je vois des c'est formidable, je vois des c'est pas ouf en vrai. Bah oui, pourquoi? Parce que c'est bien, hein? Évidemment qu'on peut s'épanouir dans des métiers qui ne nécessitent pas de passer par un parcours généraliste. Mais qui sait à 10-11 ans ce qu'il veut faire? Combien parmi les très jeunes qui vont être orientés ainsi vers des métiers très tôt, aurait pu, quelques années plus tard, à 13, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, peut-être un peu plus tard, trouver leur voie grâce aux études, voilà, généralistes, un autre métier, peut-être dans lequel ils seraient épanouis encore plus, vous voyez. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Voilà. Et d'où le constat que nous faisons. Le souci, c'est notamment l'information. Pourquoi j'ai lancé MVP? Je vous raconte un peu ma vie. Pourquoi j'ai lancé cette émission MVP? Parce que moi, je me souviens de moi, lycéen, je ne savais rien sur rien. J'étais pourtant dans une famille qui suivait ma scolarité avec beaucoup d'attention, mais en termes d'information à l'intérieur du lycée, d'information en dehors du lycée ou d'information même au sein de ma famille, on avait une vision à 2 mètres, quoi, totalement dans le brouillard de ce qu'il y avait après le bac. En fait, moi, mon lycée. Je pense que ça a dû changer, j'espère. Mais mon lycée m'a préparé pour le bac. Et après le bac, il n'y avait plus rien. Hein. Les profs ne parlaient jamais, c'est pas peu, jamais de ce qu'il y avait après le bac. Moi, au lycée, qui était un excellent lycée pourtant en Bretagne, on ne me parlait pas d'études supérieures. C'est pas qu'on ne parlait pas de métier ou d'orientation ou de secteur d'activité. On ne vous parlait pas d'études supérieures. On ne me parlait pas de prépa, on ne me parlait pas de fac, on ne me parlait pas d'école, on ne me parlait de rien. Le lycée, c'était préparer le bac. Et après le bac, eh ben, tu te débrouilles. Donc, dans certaines familles où les parents ont une connaissance pointue, aiguë de ces sujets, ben, tant mieux pour eux. Et puis, dans les familles où il n'y a pas cette connaissance interne à la famille, ben, tant pis pour vous. Voilà. Et moi, par exemple, quand je me suis lancé dans des études supérieures que j'avais trouvées moi-même, en gros, quoi. Mais j'ai découvert plus tard, au cours de mes études supérieures, l'existence de parcours qui, en fait, m'auraient intéressé beaucoup plus. Bon, au final, bon, j'ai fait le truc que je voulais faire. Parce que, en gros, je voulais devenir journaliste. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a un vrai défaut d'information et d'orientation. Et c'est partant de ce constat, en me disant. Ça n'a peut-être pas tant changé que ça, c'est ce que je vous lis dans le chat, que je me suis dit, on va faire une émission qui va justement parler des métiers, des secteurs d'activité, des formations, et montrer que, d'abord, il n'y a pas de saut métier, hein, comme on dit souvent, Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas un métier bon en soi, et que, y a des métiers très différents qui font appel à des qualités extrêmement différentes, et que chacun, selon sa sensibilité, ses valeurs, son parcours, ses capacités, son envie, enfin, etc., peut plus facilement se projeter vers telle ou telle activité qu'une autre, quoi. Voilà. C'est juste une émission qui parle de ça pour prendre un maximum d'infos, ou parce qu'on se demande ce qu'on va faire plus tard, ou parce qu'on s'emmerde dans ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on travaille déjà, et qu'on ne se sent pas épanoui dans ce qu'on fait, et qu'à un moment, on peut se mettre aussi en recherche de « mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, quoi? » L'idée est toute simple, hein. Voilà. Léni est mon prénom. Je veux bien que tu m'en dises plus, parce que là, ta phrase, elle laisse un peu sur sa fin. Donc, si tu pouvais développer, ça m'intéresse. Oh, bah c'est un classique, ça. Kitasugi, j'ai appris la pratique d'un lycée que je juge ignoble. Il demande aux candidats qui n'auront pas le bac, enfin dont ils estiment qu'ils n'auront pas le bac, de le passer en candidat libre. De fait, le lycée a 100% de réussite au bac. Je trouve ça fou que les établissements soient autant focus sur le bac qu'ils oublient le reste. Moi, à mon époque, j'avais des copains qui étaient dans des boîtes privées. J'étais dans un lycée privé, mais qui ne faisait pas ça. Mais j'avais des copains, effectivement, dont le lycée privé pouvait dire toi, tu vas passer en candidat libre, toi. Après, tous les lycées privés sont pas comme ça. Mais oui, déjà à mon époque, ça existait, ça. Little Kimou, perso, il y avait un centre d'orientation à mon lycée, mais ça n'avait rien de concret, je me sentais quand même perdu. Effectivement, c'était un sujet qui n'était pas abordé par les profs, en tout cas à l'époque. Voilà, je trouve qu'il y a plein de messages qui vont un peu dans le sens de ce qu'on dit, hein. À Arwen l'Elfe, j'ai eu mon bac en 2002. Franchement, j'ai suivi ma scolarité par défaut, et ça a continué dans mes études, vous voyez? C'est ça, en fait, c'est pas normal ce qu'on est en train de se dire là. Je pense pas que j'ai été bien accompagné. J'ai fait une reconversion dans un métier d'artisanal il y a 4 ans. Et je fais aujourd'hui de la médiation auprès d'élèves pour expliquer ce que sont les métiers d'art, c'est important. Voilà, en fait, on est super mal informé sur tout ça. Et ça, en fait, c'est un peu scandaleux, je trouve. Je vous lis. Moi, dans mon lycée privé, ils poussaient déjà les élèves dehors dès la seconde. Ah ben oui, ça pour le coup, ça j'ai connu dans mon lycée, ça. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de la troisième, quand l'établissement avait le sentiment que l'élève, le collégien, hein, n'allait pas aller au bac facilement. Et ou sans mention, on appelait les parents et gentiment on expliquait que l'élève serait mieux dans un autre établissement. C'est comme ça qu'on arrive à de très bons résultats de l'établissement scolaire au bac. Ça, j'ai connu ça. J'ai des petits copains comme ça que je voyais sortir, disparaître, parce que on estimait que ils allaient baisser le niveau de l'établissement, quoi. Le petit écrémage pour les stats. D'ailleurs, vous savez, des classements des lycées maintenant. Chaque année, il y a des classements de lycées. Et il y a des médias qui mettent en avant, il y a des indicateurs qui mettent en avant, non pas le taux de mention, par exemple, au bac, mais la capacité de l'établissement à emmener les gens au bac sans faire ça, justement. Il y a des statistiques qui permettent de le mesurer, ça. Alors ça progresse peut-être, nous dit Odoacre. Je voudrais nuancer un petit peu. Depuis quelques années, des dispositifs sont mis en place. Bon, on en évoque un petit peu là ce matin entre nous. Mais ça prend des années avant d'infuser le système. Moi, je pense que tu as raison. De plus, tout ne peut pas reposer sur les établissements à qui on demande de plus en plus de missions avec de moins en moins de moyens de profs. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Si mes profs ne me parlaient pas de tout ça, c'est aussi parce que je pense qu'ils n'en avaient pas le temps, hein. Il y a le programme, il y a plein de choses, j'imagine bien. Là, c'est le, c'est ma critique, elle porte sur le système, pas sur les gens qui l'incarnent, hein, évidemment. C'est pas, j'espère que vous aurez compris que c'est pas un discours qui est dirigé contre les enseignants. Hein. J'ai un très bon souvenir de mes enseignants. Hein. Allez, je lis encore un ou deux messages. Ah, c'est dommage ça. Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est dommage, mais. Et Kiruna qui dit, dans mon entreprise, on insère les jeunes CEJ, hein, le dispositif dont on a parlé. Mais vu qu'on n'embauche que des techniciens électricité, c'est pas un métier de rêve et les enfants sont. Les, pardon, les enfants et les jeunes sont vite démotivés. On s'est rendu compte qu'ils venaient pour avoir les aides de l'État et la validation d'une formation pour faire un autre métier. L'entreprise investit du temps pour les personnes qui utilisent le système, donc on a arrêté. Voilà. Et à l'inverse, Picabo, moi, mes parents m'ont poussé à faire des études généralistes. On n'était pas au courant, familialement, qu'il y avait des filières intéressantes en pro comme électricien. Voilà, on a un problème de. Merci Mathira pour la petite vidéo, j'irai voir quand j'aurai du temps. Allez, encore deux, trois messages parce que le sujet est vraiment important. Tu vois, Natom. Alors, ce défaut d'orientation, il peut toucher aussi les bons élèves. C'est con, mais j'avais la chance au lycée d'être un excellent élève. J'ai eu mon bac avec mention 2014. On m'a juste dit, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, bravo. Et on ne m'a rien fait découvrir. Hein, j'ai mis des années à trouver ma voie par pur hasard, assistant réalisateur, prof de cinéma. Mais quand même, maintenant, j'ai encore des questionnements. Voilà. Bon, on a un petit souci d'orientation dans notre métier, quoi. Non. Donc, écoutez. Si vous voulez qu'on se voit, qu'on se croise samedi à Paris, point d'exclamation festival. Alors, je ne vous promets pas de pouvoir échanger avec vous tous parce que j'ai deux émissions à faire en live sur place. Donc, en gros, moi, j'arrive vers 8h le matin. Vers 9h, j'ai un premier live de 3h, je pense. J'ai une pause d'une heure. Je refais un live sur place. En fait, je vais faire deux MVP sur place, sur la grande scène, également en déambulation. Donc, voilà. Si jamais vous me voyez me croiser, vous pouvez faire un petit coucou. 11h mon premier live? Ah bon, 11h? Non, je sais pas, j'ai fait un point hier. Tu crois que c'est 11h? J'ai l'impression que c'était plus tôt. Je vais être en déambulateur? Non, déambulation. J'ai dit déambulateur? Non, déambulation, je vais faire un truc dans les différents ateliers, tout ça. Bref, j'ai deux lives. Donc si on se croise et que éventuellement j'ai pas le temps d'un selfie, ne m'en voulez pas, c'est parce que je serai entre deux trucs, quoi. J'ai dit déambulateur, ouais, c'est parce que je vieillis. Pour l'exclamation festival. Ah, j'ai dit déambulation? Ok, tout va bien. Et c'est dommage parce que, bon, vu le temps qu'on va passer dans une vie au taf, faire le constat que nous faisons ensemble là. Il y a quand même quelqu'un qui vient de faire point d'exclamation déambulateur dans le chat. Bordel. Faire le constat qu'on fait ce matin avec vous, qu'il y a quand même un énorme sujet d'orientation dans notre pays. On est en 2026. Et j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé depuis 1989, l'année de mon bac. Bon. Alors, c'est en train de changer, hein, doucement, regarde. Estobal. Moi, j'étais surpris, mon fils en quatrième, on parle d'avenir car l'année prochaine sera le choix de l'orientation. Je lui parle du CIO. En quatrième, les enfants d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est. Ah non, mais c'est donc ça change pas beaucoup. Ouais, ouais d'accord, ça change pas beaucoup, ok. Donc on voit bien qu'il y a des trucs à améliorer. Allez, on finit en musique. On va parler de rock français. Alors, c'est le Figaro qui nous fait un. Figaro qui a des bonnes pages culture. Qui nous fait un petit papier pour nous parler des nouveaux artistes, des nouveaux groupes de rock français. Bandit Bandit, je sais pas si on dit Bandit Bandit. Dynamite Shakers, ces groupes qui renouvellent le rock français. Il n'y a pas Saka Punk dedans. L'autre considéré comme de la musique de Daron. Moi, j'aime bien cette musique-là. Le rock reprend du poil de la bête grâce à de jeunes artistes prometteurs qui ont décidé de chanter dans la langue de Bachung. Voilà, joli. Sac à punk, ouais, c'est une espèce de blague, parce que à l'Assemblée nationale, on est tombé par hasard sur un député qui avait une question à poser sur des propos militants d'un chanteur. Donc je te fais la scène. On va pas citer le député par esprit charitable. Bonjour, monsieur Nagui. Dans votre émission Taratata, un chanteur d'un groupe que je ne connaissais pas, le groupe Sac à Punk a tenu des propos militants que vous n'avez pas corrigés, et après il enchaîne quoi. Alors, sur le coup, on s'est dit, mais quel est ce groupe Sac à Punk? Il y a Tombouc qui dit, ah, mais j'ai cru que tu parlais de Sac à Punk. Ben, c'est ça. Le député, Monsieur Ballard, voilà, bon, c'est Monsieur Ballard, député RN Ballard, ancien journaliste d'ailleurs, voulait parler de Chaka Ponk. Voilà. Mais il connaissait pas. Donc ça a donné cette petite question rigolote et c'est devenu une ref ici. Le fameux groupe Sac à Punk. C'est un sac, tu mets des punks dedans. Avec de la 8-6. Donc, voilà, ça parle de musique rock dans le Figaro ce matin. Longtemps considéré comme de la musique de daron, le rock reprend du poil de la bête grâce à des jeunes artistes prometteurs qui ont décidé de chanter dans la langue de Bachung, c'est-à-dire en français. On l'a donné pour mort des centaines de fois depuis qu'il est né, les cassandres ont toujours prédit que le rock and roll, cette forme musicale née au milieu du XXe siècle, ne durerait pas. Voilà. La musique du diable a pourtant la peau dure. Rock and roll will never die, chantait Neil Young en dès 78, plaidant pour la permanence de ce genre. Rock and roll is dead, lui répondait Lenny Kravitz 20 ans plus tard. Dans les années 90, l'émergence du DJ a failli mettre un coup d'arrêt à la sempiternelle formule guitare, basse, batterie. Il se vendait alors davantage de synthétiseurs que de guitares électroniques dans les magasins. L'animateur Ariel Wiesman le jurait sur les plateaux télé. C'en était fini de la musique organique. Les machines allaient définitivement supplanter les humains. C'est ni la première ni la dernière connerie qu'a dit Ariel Wiesman dans sa carrière. Ah, c'est pas très grave. C'est pas écrit dans le Figaro, là, c'est moi qui me permets de le rajouter. Dans les festivals où on s'était accoutumé sans toutefois se résigner à voir des artistes solo partager la scène avec leur ordinateur, voir leur téléphone portable, les groupes sont de retour depuis une poignée de saisons. Cet hiver, le sympathique. Qu'est-ce que c'est ça? WIM, c'est un groupe? Je sais pas. À Mossan, dans les Alpes, a ouvert avec une prestation. Ah non, ça va être un festival. Remarquez des Français de bandit, bandit. Alors, est-ce qu'on dit bandit, bandit ou bandit, bandit? Et là, je sais qu'il y a des spécialistes dans le chat de musique qui vont dire bah, Samuel, tout le monde le sait, on dit bandit, bandit ou bandit, bandit? Voyez-moi comme un député qui est pas trop au courant de tout ça et qui a besoin d'infos plutôt que dire sac à punk. On dit Pandi Panda? Il m'a main dans ta gueule. Alors, il n'y a pas de spécialistes là? Ils sont où les spécialistes, bordel? Vous foutez quoi? Personne. Personne connaît? Mais le Figaro en parle, bordel, c'est tout le monde connaît si le Figaro en parle. On dit bandit, bandit. Brigand, brigand. Ok. Ok, on part sur bandit, bandit? Ok. Mais les gars, c'est dans le Figaro, tout le monde connaît. Hein? Vous connaissez pas? C'est pas fou ça. Bandit, bandit. Prestation remarquée. Maeva et Hugo, le duo rock français le plus sexy du moment, qui vient de sortir son pétardant deuxième album, Cavalcade. Eh ben, allons écouter Bandit, bandit. Vous connaissez pas Bandit, bandit? Moi, je connais pas non plus, mais je vais aller voir. Allez, music. C'est ce qu'on aime ici. On fait mine d'être là pour parler d'actualité, alors qu'en vrai. Ce qui nous intéresse, c'est d'écouter de la musique. Bandit, bandit. Bandit et plus encore. Oula, y a du... Donc il y a une chanteuse, une chanteuse. Ah, il y en a qui connaissent. La chanson Mot est trop cool. Allez, allez, voilà. Voilà, enfin des spécialistes. Ah, j'aime bien. C'est rock pop hein, quand même, hein. C'est assez catchy, c'est assez catchy, le refrain est assez catchy. Il y a des gens dans le chat. Mais non, Samuel, c'est la pub. La musique, c'est subjectif. La musique, c'est subjectif. C'est de l'art. Et moi, je vais vous dire, ça, j'aime. Voilà. Il y a des gens qui disent, quelqu'un m'a dit, c'est super nul cette chanson. J'ai eu envie d'écrire ta gueule dans le chat. Mais comme je suis quelqu'un de poli, j'ai pas répondu. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et puis, alors, j'ai vu qu'il y avait aussi peut-être aussi celle-là aussi. Il y a un an. Alors, moi, j'aime. Moi, j'aime et je vais mettre. Oui, petit côté Superbus, mais pas seulement. Il y a des. Ouais. Comment ça s'appelle? Bandit Bandit, c'est parti. Je mets ça dans ma playlist. Voilà, je me la mets de côté. Et en plus, il chante en français. Ça change un peu. Bandit Bandit. Ouais. Et je peux même vous dire que la chanson la plus écoutée. Ah, bah c'est Mo, 1 200 000 écoutes. Ouais. Alors je me la rajoute, excusez-moi. Parce qu'on est toujours à la recherche de nouveaux sons, bien sûr. Hein, c'est à ça que doit choisir eux. Servir une vie. Une vie, c'est pour mettre des nouveaux sons dans sa playlist. Hein. Le reste, c'est pas très important. Hein. Let's go. Ok, on revient à l'article. Donc, voici. Attention, on va découvrir d'autres. Merci le Figaro. D'autres groupes. Et donc, Maëva, la chanteuse qu'on vient de voir. Elle dit, il est certes question d'un renouveau du rock français dans les médias, mais j'ai l'impression qu'on ne s'est pas encore gagné pour nous en matière de programmation dans les festivals, donc on est au tout début. J'ai l'impression que c'est plus simple pour les anglo-saxons. En France, il reste des gens de 50 ans qui ne veulent pas trop que ça change. Tu sais, dans mon chat, Maëva, j'ai l'impression que ce n'était pas forcément les gens de 50 ans qui râlaient. Hein. Donc il y a toute une partie de l'article qui est consacrée à ce groupe, il y a un vrai coup de cœur manifestement du journaliste. Alors, donc là, ça salue par exemple l'intérêt notamment d'un groupe français qui chante en français, mais le Figaro dit aussi le succès des formidables et efficaces Last Train ou la réussite artistique des disques des All-In Joes prouve qu'on peut continuer à chanter en anglais lorsqu'on est français. Alors, je suis embêté parce que je ne connais pas ces groupes. Mais l'exemple des Dynamite Shakers, qui sont en train de passer progressivement de la langue de John Lennon à la nôtre, rappelle l'exigence d'Alain Bashung. Vous connaissez, vous, les Last Train? On va aller voir ça. Désolé, hein, j'en profite, hein. Last Train, c'est bien, Dotamil, tu me donnes, c'est bon, tu me donnes un titre? Tu me donnes un titre? Là, je vois que ça connaît là. J'ai One by One par exemple. Non, mais il y a plein de gens qui connaissent là. Vu deux fois en concert, trop bien, génial, Last Train. Vous avez pas un titre à me proposer? J'ai One by One par exemple. Fire, all one. Moi, je suis désolé, je vois une batterie, je vois une guitare, je suis heureux. Voilà, c'est tout. J'ai retrouvé la personne qui disait que sur le titre précédent, c'était trop nul. La personne qui, dans son historique, nous disait aussi, moi, ce que j'aime, c'est le tango argentin. Et nous a redit encore sur ce titre, c'est trop nul. Pardon, je me suis permis un petit ta gueule dans le chat. Ok, donc Last Train. Ok, c'est pas mal. Mais du coup, c'est français ou c'est des Canadiens? Quelqu'un m'a dit, c'est peut-être des Canadiens ou des Québécois. Donc, alors, et All in Joes, vous connaissez ça? Ah, c'est alsacien, donc c'est pas du tout des Canadiens alors. Ok. Eh ben, c'est très bien. Bravo l'Alsace. All in, et ça, vous connaissez ça? All in Joes. Oui, un ta gueule en lettres capitales, ouais, j'ai fait, ouais. T'es super drôle aujourd'hui. Non, je suis drôle tous les jours. Mirror, mirror, mais comment vous connaissez tout ça, vous? Eh ben, c'est parti dans la playlist. Ok, merci le Figaro. Incroyable. Un petit côté un peu, je sais pas, un vieux son, pas mal. Bon, je sais qu'il y a des amateurs de tango argentin dans le chat, mais faut être ouvert. Alors, ça parle de quoi encore? Ah oui, Dynamite Shakers. Bon, c'est quand même mis en avant, là. Il y a vraiment deux groupes mis en avant, c'est Bandit Bandit et Dynamite Shakers. Alors, on va aller voir Dynamite. Je pourrais vous mettre du BTS pour rigoler, mais... Ah, bon, ça va fait... Alors, qu'est-ce qu'on met? Quelqu'un connaît? Alors là, merci. Et c'est dans la playlist. Merci le Figaro. Sympathique ça quand même. Un bien moi, un bien. Donc Dynamite Shakers. Je regarde si certains connaissaient les titres. On dirait téléphone. C'est pas tout à fait le son de téléphone, mais c'est bien. Comment est-ce qu'ils sont fatigués? Ils se lèvent. J'aime bien l'attitude, j'aime bien l'attitude. En vrai, c'est bien, non? T.E.T. c'est un groupe ou c'est une chanson gentil communiste? Parce que chacun me demande son groupe maintenant. Alors, ça y est, vous êtes trop sympa parce que vous me proposez plein de groupes du coup. Les Agités du Bocal. Les agités du bocal. Je vous lis, hein, je vous lis. Hein. Ah, ils avaient fait les premières parties de Sum 41, les Dynamite Shakers. Des Vendéens, me dit quelqu'un dans le chat. Alors, vous êtes plusieurs à me parler d'un groupe québécois qui s'appelle Angine de Poitrine aussi. Excusez-moi, hein. Bah, on y est, hein, tant qu'à faire. Un titre, angino-poitrine. Quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, j'étais en train de tousser et j'ai cru, et je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui se soucie de ma santé. Parce que j'ai toussé et quelqu'un m'a dit, ouais, angine de poitrine. Et j'ai dit, non, 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 ça va. C'est bien, angine de poitrine. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? J'ai quoi? Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont inventé quelque chose. Ça ne vaut pas le tango argentin, mais c'est pas mal. Avance, tu vas voir, il se passe des choses après. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, on va pas aller voir toutes les nouveautés, hein. Voilà. On n'est pas le top 50 ici, hein. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et c'est pas tout. Est-ce qu'il reste des artistes que veulent nous vendre le Figaro? Je vous rappelle que tout ça, c'est dans le Figaro quand même, hein. Dynamite Checkers. Pas mal en vrai, hein. Allez, à vous, on écoute un... Faites-moi découvrir un dernier morceau d'un groupe français. S'il vous plaît, récent. Faites-moi découvrir un truc. Alors Théa, bah oui, Théa, oui. Donc c'est un groupe alors. Quelle chanson de Théa ou T-H-E-A? C'est quoi Théa? Oh, il y a plein de... Oh, c'est trop mignon. Il n'y a rien à faire. Pardon, je ne vais pas tout prendre, mais il y a plein de propals. Il n'y a rien à faire. Ultra Vomit, j'adore. Mais c'est pas nouveau. Je suis de retour. Ça a crash. Un petit stream ne serait pas un stream si de temps en temps, ça crachait pas. Quand même, voilà. Bon, on est entre nous. On est quelques-uns. Les gens qui... Voilà. Donc, on a crashé. C'est pas grave. Ça arrive parfois. Peut-être que mon PC commence à fatiguer. Voilà, donc je relance pour vous dire au revoir, hein, puisqu'on était, on était à la fin de ce stream et à la fin de cet article. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Waouh, et vous êtes quand même toujours là? Je me dis, je vais relancer pour dire au revoir, mais il n'y aura personne. Et vous êtes quand même là? Vous êtes incroyable. C'est fou, vous n'êtes pas parti. Vous êtes trop gentil. J'ai fermé une fenêtre je sais pas, le PC a pas aimé. Merci les amis, merci pour le stream précédent. On se retrouve peut-être ce soir pour la suite, vous savez, de la dernière audition de la commission de l'Assemblée nationale sur le duel public, la suite de Delphine Arnault. On a fait la première partie hier soir, on fait peut-être la deuxième ce soir. On se retrouve aussi donc mardi prochain pour Réponse Cache 2, on se retrouve samedi au festival. Et je vous souhaite la plus belle des journées, je vais aller bosser cet après-midi. Et on va raid quelqu'un. Notre ami Monody qui continue à faire du vélo pour une belle cause, la lutte contre le cancer. Je vois qu'il y a Alderiat qui est en live aussi. Il y a DevGirl, il y a Dejna, il y a la petite Potière, il y a Chinou, il y a une petite Marie aussi. Il n'y a que des gens qu'on aime bien. Ah. On pourrait aller voir Monody de nouveau là, qui fait des efforts. Il est toujours à vélo? Ouais, allez. Allez, allez. Monody qui avait déjà fait quelque chose pour la lutte contre le cancer, on l'avait raid très régulièrement à l'époque de son défi. Voilà, et là on va le raid une deuxième fois. On l'a déjà fait il y a un jour ou deux parce que c'est assez formidable ce qu'il fait. Donc je vous rappelle Monody qui fait du vélo là, je sais pas, il doit traverser la France encore, c'est un fou. Voilà, au profit de la Ligue contre le cancer. Et, voilà, c'est un streamer formidable. Merci les amis, je vous dis à ce soir. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à ce soir ou plus tard. Bon, alors, il y aura un stream ce soir, ça c'est sûr. Ah, et puis demain matin, la revue de presse, bien sûr. Bisous! Je coupe, vous savez, parce qu'après, parfois, il m'arrive des problèmes. Et puis, je crois que je ne suis plus en live. En fait, je suis toujours en live. Et puis, en fait, je pensais que j'étais... Bah, bref, vous avez capté, quoi. À très vite. Merci pour ce matin. Ciao.